Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous, hein, toujours avec autant de plaisir, 19h, 20h30, hein, tous les lundis soirs. Et on a justement une invitée aujourd'hui qui est venue pratiquement en voisine, elle est venue de Gentilly, elle est présidente du comité régional olympique et sportif des Yvelines, c'est Evelyne Sériégy. Evelyne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Hein. C'est avec plaisir.
Vous êtes tout prêt, hein?
Absolument, je suis vraie voisine.
Voilà, très bien. Alors, naturellement, une grosse partie de cette émission sera consacrée eh bien, aux différentes actions hein, et aux différentes donc, compétences du CROSIF. Mais auparavant, je veux saluer aussi l'équipe qui m'entoure. Hein. Ils sont là, ils n'ont rien raté de l'actu foot et de l'actu sportive du week-end. Je commence par Thomas Louis. Salut Thomas Louis, ça va?
Comment tu vas, Philippe?
Ouais, pleine forme.
Moi, en pleine forme,
ouais.
Comme d'habitude.
Tu as beaucoup travaillé cette semaine. Hein. Tu étais sur le match de l'Atlético Paris, donc on en reparlera. Tu as vu des copains arriver.
C'est hein, ça, c'est
jeunes journalistes qui ont fait un rallye raid de vélo. Donc c'est super. Hein.
Voilà, ouais, formidable. Nice, voilà. Paris en voilà. Vélo
et
pour une association
humanitaire en plus.
C'est
voilà.
Ça.
On en reparlera. Je salue aussi Valentin. Ça va, Valentin?
Bah écoute, ça va très bien.
T'as
Philippe.
Rien raté de la moto, oh, t'as rien raté de la course à pied, t'as rien.
Ah, je suis à fond. Je suis
voilà,
à fond.
C'est bien. Et puis il est avec nous aussi. Alors lui, il a rien raté des matchs. Je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à raconter ce soir.
J'ai beaucoup de choses à raconter ce soir, Philippe.
Elle a dit bonsoir.
Salut Philippe, ça va et toi?
L'anglais, ça se passe bien?
Ça se passe.
Très bien. Ok. Alors, donc, on va naturellement commencer, c'est la tradition maintenant, par l'actu foot. Evelyne, je sais pas si vous avez vu le match de foot.
Écoutez, non, j'en ai pas eu le temps parce qu'il y a beaucoup d'événements aussi ce week-end. Donc,
voilà. Bon, vous savez qu'on a une semaine un petit peu mouvementée. Hein. Ça s'est plutôt bien passé jeudi où la France a battu l'Autriche 2-0. Ça s'est beaucoup moins bien passé hier soir où la France a été battue par le Danemark 2-0. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Mais si on était rassuré un tout petit peu jeudi soir, on l'est beaucoup moins ce soir. Voilà. En vue de la Coupe du Monde, naturellement.
Jeudi soir, ils ont fait un match extraordinaire. Ouais. Franchement, Aurélien Tchouaméni avec Fofana au milieu de terrain, c'était une merveille de les voir jouer ensemble, de les revoir réunis parce qu'ils jouaient ensemble à l'AS Monaco. Et franchement, ils ont tenu le match. Ils ont montré de quoi ils étaient vraiment capables. Avec Mbappé qui met un superbe but, Giroud qui n'en finit plus, voilà. Mais juste après, on se fait rattraper par la réalité. Le match contre le Danemark, hier, c'était
catastrophique.
Voilà.
Excepté 20
en fait,
minutes, mais c'est catastrophique.
Ce qui est devenu catastrophique, c'est même pas le match qui était catastrophique en soi. Il y a le résultat, il y a beaucoup de choses aussi à améliorer.
On a été partout.
Il y a des moments, oui, mais il y a des moments où la France dominait et ils n'ont pas su conclure.
Oui, bah ça aussi,
voilà.
Ça fait partie.
Ça fait partie aussi, voilà. Mais c'est ça, ils n'ont pas su conclure. Et franchement, après, voilà, au final, ils perdent 2-0. C'est une victoire méritée pour le Danemark et pour les Danois. Malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier puisque la Croatie de l'autre côté ont gagné 3-1 contre l'Autriche.
2-0 pour la France devant l'Autriche, donc ça c'était jeudi. 2-0, 2-1 pour la Croatie devant le Danemark, c'est aussi jeudi. Et hier, donc la Croatie est allée gagner en Autriche 3-1. Donc la Croatie termine premier de sa poule avec 13 points, devant le Danemark, deuxième 12 points. Troisième la France 5 qui se maintient quand même hein, dans le groupe A. Et quatrième l'Autriche donc avec 4 points. Thomas Louis, toi, quels sont tes sentiments sur ce match?
Moi, je voulais aussi parler des Danois.
Avec une équipe, alors c'est une très bonne équipe. Hein.
Très bonne équipe des
Bien
Danois.
Bien meilleure que l'Autriche.
On les a vus déjà. On les a vus sur le dernier Euro. Oui. Ils ont fait une très bonne performance. Et pour revenir sur la France, c'est décevant. On a l'impression, et en fait, on dit ça depuis déjà plusieurs années, mais on a l'impression que Deschamps arrive un peu à bout de souffle dans ses idées.
J'espère que tu te trompes.
J'espère me tromper, honnêtement. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle avec l'équipe d'une équipe de France qui nous fait un peu peur. On espère se tromper, mais rien de rassurant. Comparé à la semaine dernière, encore moins rassurant. C'est sans Varane derrière, on a l'impression que c'est...
Alors c'est vrai que c'était une équipe un peu expérimentale, qui a plutôt bien réussi jeudi, qui a moins bien réussi hier.
Oui, il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont fêté leur première sélection, etc. Mais c'est censé être des joueurs qui ont un niveau international, en tout cas en club.
Ouais.
Voilà, franchement, moi après, Kamavinga, c'est un peu mon chouchou, mais
c'est dommage,
hier,
il est passé complètement
à travers.
Le nombre de ballons perdus au milieu de terrain.
Mais moi, je pense que ce n'était pas un bon choix d'aligner Kamavinga titulaire, en sachant que juste avant, Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana en milieu de terrain, ils ont tenu la baraque contre l'Autriche. Là, on sait qu'on va jouer contre le Danemark, c'est plus fort. Pour moi, Kamavinga aurait dû débuter contre l'Autriche. Et là, aujourd'hui, normalement, on aurait dû aligner Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana au milieu de terrain où on s'est fait littéralement manger. Eriksen qui s'est amusé, un petit pont par-ci, un petit pont par-là.
Les transversales,
Eriksen hier magistral.
Vraiment magistral. Toi, Valentin, il y a matière à s'inquiéter de cette défaite de l'équipe de France 2-0 contre le Danemark.
On ne sait même plus si on doit s'inquiéter ou pas, parce qu'on est habitué avec l'équipe de France. En fait, c'est un bon match et après un mauvais match. Là, on avait enchaîné, on n'avait pas gagné à domicile déjà. L'Autriche, c'était la première victoire depuis deux ou trois matchs déjà au Stade de France. Donc
battu à
déjà...
domicile deux fois au Stade de France quand même, hein, par la Croatie donc puis par le Danemark. Hein,
ouais, donc, c'était inquiétant. Et
alors
là...
on pouvait le mettre sur la fin de saison aussi. Hein, on pouvait mettre ça sur dire, bon, c'est fin juin,
oui, mais on peut toujours...
ça va aller mieux. Et puis là, finalement, non.
On peut dire aussi pareil que là, les joueurs, ils ont un calendrier très très chargé en
ouais,
bon, enfin, Coupe du Monde.
Saison,
mais... voilà, genre, c'est quand même inquiétant d'avoir un mieux terrain. Et je rejoins ce que Adiel a dit, mettre Kamavinga et Tchouaméni à côté, c'était peut-être pas
ce
le
qui
bon
inquiétant,
match pour
c'est
eux.
Le nombre de blessés aussi après deux mois de compétition quand même. Hein, parce que la saison, elle vient de débuter pratiquement.
Inimaginable de jouer avec Alphonse Areola dans les cages de l'équipe de France.
Il était bon hier quand même.
Oh là, j'irai pas jusque là quand même.
Ah, il a eu deux trois arrêts déterminants quand même. Ouais.
Je le trouve pas rassurant en fait sur sa ligne. Je le trouve pas rassurant. Je trouve que c'est pas un gardien, c'est censé, je sais pas, transparaître, enfin être vraiment le leader en défense. Déjà que la défense était un petit peu dépassée par les événements. Je trouve qu'Areola n'a pas rassuré.
Non, franchement, la défense est à la ramasse, il n'y a rien à dire. Moi, pour moi, Areola, il a fait son taf. Il a fait son taf. Les deux buts qu'il se prend, il aurait, pour moi,
il
aurait pu les éviter.
Il a fait des arrêts déterminants.
Il a fait des arrêts déterminants. Il a essayé de les encourager dernier.
Voilà, hein.
C'est loin. Voilà, on ne peut pas s'arrêter sur Areola. Non. Je te le dis, parce que si on s'arrête à chaque fois sur les gardiens quand il y a une défaite, à partir d'un moment, on ne va jamais s'arrêter. Et franchement.
Schmeichel, très grand gardien.
Voilà, comme Schmeichel aussi, très grand gardien. On l'a vu aussi. Mais pour moi, en tout cas, de la faute, c'était plus les défenseurs. Voilà, point de vue défenseur. Pavard, à un moment, il manque son remplacement. Mendy aussi, notamment. Voilà, en défense, c'était pas très très fort quoi hier. Quoi. Voilà.
Non, mais je suis d'accord. Je voulais pas spécialement incriminer Areola, mais tout ça pour vous dire que à deux mois d'une Coupe du Monde, c'est inquiétant d'avoir Areola au cage. C'est tout ce que je dis.
Ah oui, inquiétant. Bah après, Maignan blessé,
Maignan,
absent,
c'est top gardien au monde. Lloris, c'est encore très très bon. Quand on a ça, de les voir blessés, c'est vrai que on préférait les voir quoi.
Alors moi je voudrais demander simplement à Evelyne, je vais pas l'embêter avec ça. Evelyne, on arrive au Qatar, hein, la Coupe du Monde. Vous la sportive que vous êtes comme nous, il fallait y aller au Qatar.
Écoutez,
c'est pas
une question aussi
Moscou,
facile que ça à répondre parce qu'il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, il faut prendre la mesure de la chose avec les bons côtés, les mauvais côtés. Il y a des deux. Je crois qu'il faut qu'on soit prudent, bien réfléchir, mais je pense que la décision qui sera prise sera la bonne.
On va y aller au Qatar, mais je veux dire, c'est toujours des vieux problèmes qui reviennent. On l'a connu en 80 sur Moscou, on l'a connu sur la Chine, on l'a connu sur Pyeongchang.
Malheureux que le sport soit entaché de justement toutes ces problématiques qui finalement polluent le sport qui doit être, j'allais dire, apolitique, à religieux, à tout finalement. Et on est en train d'embrigader le sport dans un système dans lequel il ne doit
pas
être.
Justement, et vous qui justement vous battez pour les belles valeurs du sport, tout cet environnement autour, c'est un petit peu malsain.
Écoutez, moi je pense qu'on devrait se recentrer sur le sport ses valeurs, les valeurs qui sont des valeurs citoyennes, des valeurs laïques, des valeurs unitaires et qui finalement sont prises dans un autre engrenage qui finalement ne ressemble plus au sport. Et moi je suis pour le sport, pour tous et tous et à tous les âges de la vie, c'est-à-dire vraiment le sport qui va donner une bonne santé à tout le monde et qui va donner le moral et qui va donner aussi la possibilité de s'épanouir. Mais là, à un moment donné, on passe les frontières du sport.
C'est sûr que si on gagne la Coupe du Monde, on aura le moral en France. Voilà. Bon, en tout cas, on n'a plus qu'à attendre la liste de Didier Deschamps. Début novembre.
C'est le 9 novembre.
9 novembre, c'est ça. On connaît la date. Ouf, il va avoir du mal à dormir.
Oh oui. J'aimerais pas être à sa place.
Oui,
après, franchement, je pense que. On n'a pas encore la liste officielle, mais je pense que officieusement on connaît lui, en tout cas une très très bonne partie. Même nous, je pense qu'on connaît une très très bonne partie, voilà, qui vont voir le jour. Après, ça dépendra aussi des blessés, parce que aussi, voilà, on a énormément de blessés, mais c'est à cause aussi de, voilà, ils enchaînent, ils enchaînent. Voilà. Ouais, Pogba, je pense pas, parce que je pense pas qu'il sera au niveau. Voilà, il aura pas le temps de se remettre au niveau.
Blessé, Kanté, on sait pas.
Et surtout quand t'as Youssouf Fofana avec le match qu'il a fait et Aurélien Tchouaméni, tu te dis déjà avec ces deux tauliers au milieu de terrain. Voilà quoi. Après, N'Golo Kanté qu'on pourra récupérer notamment aussi, entre-temps.
Après, c'est la facilité, c'est de vivre à l'extérieur avec un groupe de pendant un mois. C'est ça la difficulté.
C'est ça aussi. C'est
après,
ça,
on verra le petit joueur en plus que Didier Deschamps nous sortira de son chapeau, parce qu'à chaque compétition, il arrive à nous sortir un ou deux mecs qu'on ne connaissait pas. Et
ou pas trop.
On va pas se mentir, Benjamin Pavard à Coupe du Monde 2018. Ouais. Personne ne regardait les matchs de Stuttgart.
Mais sinon, il y avait Truffer qui jouait avec Rennes. Bon, hier, c'est loupé.
Clairement. Sa première, il rentre pas dans un match facile.
C'était pas un match facile non plus. Il rentre pas dans un match facile non plus. Voilà, je dis pas le contraire, mais il s'est quand même loupé quoi. Voilà. Du coup, je pense qu'on aura du mal à le revoir. En tout cas, je pense pas.
C'est dommage parce qu'en club, c'est un vrai bon joueur. C'est un joueur qui a de la niaque, qui va.
Bien sûr, mais avec Rennes.
Ouais, c'est ça.
Là, on t'appelle avec l'équipe de France, c'est autre chose.
Non, je suis d'accord. C'est...
Bon, en tout cas, on en reparlera naturellement de cette équipe de France dès le mois de novembre, dès la composition. Alors, dans le groupe 2 et 3, on va jouer cette semaine, donc on aura l'occasion de faire le grand bilan la semaine prochaine. Il y a quand même un Portugal-Espagne qui va être décisif. Hein. C'est demain. Et puis aussi la Hongrie qui va peut-être déjouer tous les pronostics ce soir.
La Hongrie, moi j'y
contre
crois.
Contre l'Italie. Hein.
Oui, contre l'Italie, moi j'y crois. Ils vont jouer, ils vont déjouer les pronostics s'ils ne l'ont pas déjà fait. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne perdent pas en tout cas à domicile. Voilà, un match nul et profitez-en. Ils ont une très belle cote à 4 euros.
Ah bah oui, voilà.
C'est bon. Ah ouais,
du coup, je dis l'Hongrie, ce soir en tout cas, ils ne perdent pas. Un handicap à tenter.
Voilà, et puis par contre, il y a un autre groupe qui s'est terminé. Hein. C'est le groupe de la Belgique et des Pays-Bas. Donc on a eu la Belgique qui a battu le Pays de Galles 2-1 et les Pays-Bas qui sont allés gagner en Pologne donc jeudi 2-0. Et puis hier, les Pays-Bas qui bat la Belgique 1-0 et le Pays de Galles qui est battu à domicile par la Pologne 1-0. Donc c'est les Pays-Bas qui s'imposent avec 16 points. Devant la Belgique, 10 points. Il y a beaucoup d'écart. Hein. Ouais. Troisième, la Pologne 7 et quatrième, le Pays de Galles, donc 1 point. Donc le Pays de Galles, comme l'Autriche, rétrogradé dans le groupe B hein, de la Ligue des Nations. Et puis le Pays-Bas qui feront donc la phase finale avec la Croatie.
C'est ça. Ouais. Les deux pays. Ouais.
Mais les Pays-Bas, c'est. Ou tout l'un ou tout l'autre.
Ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud hier. Ils ont eu chaud. Dernière minute, action incroyable à la dernière minute sur un ciseau d'un Belge. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un ailier belge qui met un ciseau à la Zlatan Ibrahimovic sur la barre à 90e. Bref, c'est un beau match.
Après même un match nul.
Oui, ils seront quand même cas, qualifiés. Oui, ça changeait pas.
C'est pour
oui,
ça
qu'on
voilà, peut pas vraiment dire ils ont eu chaud.
Non, mais ils ont
après,
eu chaud
sur le match. Sur le match, ils n'ont pas maîtrisé le match. Quoi. Mais après, je pense que même si, même avec, parce que s'ils perdaient, ils avaient quand même 3 points de plus.
Oui, quand même.
Et match aller, comme ils les ont battus match aller, je pense que, je sais pas, peut-être ils se sont départagés avec la différence de but. Du coup, je crois qu'ils étaient déjà qualifiés officieusement.
Très bien. Bon, on verra ça pour l'équipe de France. Il y avait quand même du foot amateur hein, cette semaine et ce week-end. D'abord, un petit mot sur le foot féminin, tiens, puisque le Paris FC a battu le Havre 1-0. Lyon est allé s'imposer à Montpellier 3-1 et le Paris Saint-Germain qui bat Fleury 2-1. C'était presque un derby. Hein, donc, Lyon et Paris Saint-Germain en tête avec 9 points. Troisième, le PFC 7 points. Et puis, cinquième, Fleury, Bordeaux et Dijon 4 points. C'est bien le foot féminin. Evine, hein, ça commence à bien.
Écoutez,
à
oui,
bien
on est ravis hein. Parce qu'effectivement, les footballeuses sont vraiment attendues. Moi, je demande encore
maintenant.
Un peu plus de médiatisation hein, pour ces jeunes femmes qui s'engagent pleinement. Et je pense que ça permet encore une fois d'avoir cette égalité que moi je recherche vraiment au sein du comité. C'est-à-dire que tout individu, qu'on soit un homme ou une femme, on peut faire le sport qu'on veut. Mmh. Et là, je pense qu'on est vraiment sur la bonne pente. Moi, je suis vraiment sur l'égalité pour tous et toutes, de manière à ce qu'on puisse choisir son sport. Et là, je suis tout à fait enthousiaste pour les footballeuses françaises.
Et c'est vrai qu'on voit des clubs maintenant qui s'inscrivent, foot féminin, qui créent, hein, qui se créent.
Absolument, des clubs, et on a vraiment la Fédération et la Ligue Île-de-France de foot a vraiment mis, j'allais dire, l'accent sur l'accueil pour les féminines, avec des créneaux qui commencent à être maintenant raisonnables. Et je suis très très contente parce qu'encore une fois, on a des belles initiatives et surtout des beaux potentiels physiques.
Oui, puis un championnat où on a des équipes parisiennes qui brillent, le Paris FC et puis le PSG, même s'il y a Lyon qui est un petit peu au-dessus.
Absolument, mais on se porte bien.
Voilà. Allez, puis il y avait le national aussi. Hein. C'était la 7e journée. Et là, naturellement, on va s'intéresser au club francilien. D'abord, dire que Versailles a partagé le nul contre Nancy 2-2. Pareil pour Red Star face à Martigues, de partout. Et puis, donc, la défaite, malheureusement, du club du coin. Le Paris Atlético contre Avranches, 1-0. Tu étais au match?
Oui, j'étais à Boutroux. Bah, déjà, le retour Boutroux, de Boutroux,
ça, c'est bien.
C'est déjà pas mal. Alors, là, je vais avoir mon œil de journaliste qui était que même quand on était en tribune de journaliste, on ne voyait pas le match. Alors, comment c'était un petit peu problématique, qui est qu'en fait, Boutroux, il y a une grille devant le stade et il y avait tous les supporters devant la grille. Ah. Et les comment ça s'appelle? Enfin, on n'était pas assis assez haut pour voir, en fait. Donc, les personnes qui commentaient les matchs et tout, c'était très compliqué.
Ah bah, c'est bien d'en parler. Je sais que notre ami Eman doit nous écouter.
Oui, oui, oui.
Donc, il va falloir améliorer ça du coup.
Non, mais
ça a beaucoup,
j'irai pas jusqu'à chauffer, mais ça a un peu agacé les journalistes qui étaient à côté de moi, la Fédération française de football et West France, qui n'étaient pas du tout contents. Moi, c'était une première fois au stade. Du coup, bah, j'étais quand même heureux. Et de toute façon, moi, je suis là pour le sport. Du coup, bon, j'allais pas rechigner. Mais c'est vrai que ça a un peu agacé mes amis journalistes. Et en plus, la soirée a été gâchée par une défaite, une deuxième défaite d'affilée à domicile. Alors que, encore une fois, un match contrôlé, on se demande comment ils peuvent perdre leur match en ayant, je sais pas, 70% de possession.
Ah, et 70% de possession.
Je crois qu'on est à 64, quelque chose comme ça.
Oh là là.
Et juste, il n'y a pas le petit but.
Mais ils n'ont pas eu d'occasion quand même.
Si, ils ont eu pas mal d'occasions. Il y a une frappe.
On peut avoir la possession, puis pas d'occasion.
Il y a une frappe juste avant la mi-temps du numéro 19, dont je ne me souviens plus le nom, sur la barre des 40 mètres. Magnifique. Il y a 2-3 corners avec 2-3 situations intéressantes. Il y a aussi 2 face-à-face en deuxième mi-temps qui ne rentrent pas. Donc, un match décevant, une défaite à domicile qui leur fait mal. Mais j'ai pu avoir, du coup. Le numéro 8, Dylan Nzeza, qui nous a parlé de ce match et de ce début de saison. Une deuxième défaite d'affilée, alors que pour le coup, encore dans le contenu, c'était pas mauvais. Qu'est-ce que vous tirez de ce match, encore une fois?
Un manque de réussite. Je pense que ce match, c'est les 15 premières minutes qui nous font du mal. Sur l'ensemble du match, je pense pas que la défaite est méritée. Mais au final, on perd ce match. Donc c'est frustrant, mais faut qu'on garde la tête haute et le prochain match, faut absolument le gagner pour continuer à exister. Mais je crois beaucoup en ce groupe parce que ce qu'on a démontré aujourd'hui, on n'a rien à envier à cette équipe d'Avranches, donc ça va le faire.
Un début de saison un peu poussif, mais c'est vrai qu'il y a de très bonnes choses. On a vu avec la victoire contre le Red Star. Qu'est-ce qui vous manque en soi pour concrétiser ces bons matchs, aller chercher des points?
Peut-être ce brin de folie à domicile là. Fallait qu'on mette un petit peu cette folie et surtout rester concentré de la première à la dernière minute. Je pense que là, aujourd'hui, on était en réaction. Faut pas qu'on soit en réaction et faut que dès l'entrée du match, on mette du rythme. Et je pense que quand on va mettre ça en place, les résultats vont suivre. Je m'en fais pas.
Là, aujourd'hui, c'était le retour à Boutroux. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? J'imagine que c'est un bonheur pour vous.
Ça fait du bien, étant donné que la saison dernière, on a fait toute la saison à Boutroux, on a été champion. Là, les supporters étaient là, il y a eu une bonne ambiance. Malheureusement, le résultat n'était pas là, mais je pense qu'il y aura des bonnes choses à faire dans ce stade si on continue à jouer ici.
Voilà, c'est entendu. Hein, donc, ça va leur porter chance.
Oui, on espère.
Voilà. Alors, on va quand même rappeler que pour l'instant, Avranches qui est venu gagner donc à l'Atlético est en tête avec Concarneau et Dunkerque, 12 points. Le quatrième, c'est Orléans, Nancy, Versailles, 11 points. Donc, on voit que c'est très serré. Septième, donc Martigues, Red Star, 10 points. C'est vraiment donc très, très resserré. Et Paris, Atlético est 15e avec 6 points. Ça commence à devenir problématique. Et les prochains matchs, ils joueront la semaine prochaine à Martigues à 19h30 et puis ils recevront le 12 octobre en semaine le Puy à 19h donc à Boutroux.
Le match contre Martigues va être déjà décisif, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'avant le match du Red Star, on disait que c'est peut-être ce qui allait jouer dans le mental du début de saison. Ça a été une très belle victoire et je pense que ça leur a donné quand même un élan qui était positif.
Oui,
qui était positif.
On pensait que ça allait décoller, puis non.
Et pourtant, les deux derniers matchs sont des bons matchs.
4-0 quand même au Mans.
J'avais oublié le match contre le Mans, mais le match est un bon match, mais on ne sait pas. Mais là, Martigues, c'est une très bonne équipe. C'est à domicile ou à l'extérieur?
À l'extérieur. Ça sera à Martigues.
S'ils peuvent revenir.
Ils reviennent à domicile le 12 octobre.
S'ils peuvent revenir avec quelques points, ça leur font du bien, je pense.
Très bien. Bon, et puis un autre club, tiens, du 13e, c'était le basket. Donc le Paris Basketball, ils ont été battus de pas grand-chose, 102 à 99 face à Bourg-en-Bresse. Et ils joueront donc cette semaine à Nanterre. C'est un beau
c'est
derby.
Ça, ouais.
Hein,
c'est un très beau derby.
Chez le président Donadieu, là-bas, donc le 27 septembre, donc demain soir à 20h30, avant de recevoir donc, eh bien, de Blois. Ça sera samedi à partir de 20h au gymnase c'est Carpentier.
Ouais. Au gymnase Carpentier, ouais. Ouais, un très très beau match du Paris Basket. Et malheureusement, dans les dernières minutes, ça l'a pas fait. Ça a, c'est vraiment passé de peu. Hein. Ouais, c'est ouais. ça. C'est des actions. Il faut jouer tous les cartons à fond. Et si tu pendant 2-3 minutes tu passes à côté, bah voilà, on voit le résultat. Et on espère que ça sera différent face à Nanterre et que ça va commencer à se mettre un petit peu en marche, quoi.
Alors, Evelyne, le Paris Atlético en foot, le Paris Basketball en basket, le Paris Volley, le 13e arrondissement, c'est un département très actif, très dynamique. Hein,
exactement,
voit, hein.
Bah, comme toute ta capitale et comme toute ta région francilienne, je crois que c'est là où il y a le plus de sportifs de haut niveau, remarqué. Donc, on est fidèle à notre engagement. Je crois que c'est important de pouvoir souligner qu'effectivement, on a de beaux athlètes. Bon, je crois que c'est vraiment le fleuron, mais je crois que c'est aussi dans toute la France, pareillement. Mais c'est vrai qu'on est très, très fiers d'avoir justement toutes ces belles équipes qui sont bien supportées, bien aidées, et on voit tout l'engouement que ça draine derrière. Oui. Je crois que quand et on puis, est enthousiaste pour le sport, comme on est tous les Parisiens, les Franciliens, je crois que ça met du baume au cœur. Et je pense qu'avec les deux années qu'on vient de supporter de pandémie, où on a été bien privés, je crois qu'on l'apprécie encore plus.
Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est que les Gobelins, on en parlait quand on a reçu le responsable en fin de saison dernière, c'est un club de quartier au début. Et c'est devenu le troisième club francilien après le Paris Saint-Germain.
C'est,
et
ça,
Paris
c'est ça la richesse.
C'est ça qui est beau. Hein.
C'est la magie du sport.
Ils ont tous joué là-bas. Voilà. C'est leur club de cœur. Hein. Donc,
c'est la richesse des rencontres, des belles rencontres que peut provoquer le sport. Et j'y crois beaucoup parce qu'encore une fois, c'est ça la valeur du sport. C'est devenir champion. Mais on ne sait pas au départ qu'on va devenir champion. Mais voilà, c'est le fait qu'on soit dans un club qui nous porte, qui nous aide avec des bénévoles, des dirigeants. Et tout ça met une bonne mayonnaise pour qu'on sorte, j'allais dire, en haut du panier.
Et puis le basket qui joue à Carpentier, Boutroux qui a été amélioré, c'est pas très loin, c'est juste derrière. Et puis naturellement le volley qui joue à la salle Charpie. Il y a aussi des installations.
C'est vrai que le 13e a pas mal d'installations et on est quand même... Bon, je rappelle quand même, si vous pouvez me le permettre, de dire qu'on est quand même la dernière région au niveau du nombre d'équipements par rapport au nombre d'habitants et de largement très, très loin derrière. Parce qu'on est vraiment, malgré les efforts qui sont faits pour avoir des équipements, on compte un peu aussi pour le fait d'avoir les Jeux, qu'on ait quelques retours d'équipements de proximité. L'État fait beaucoup, la région fait beaucoup, les collectivités s'engagent régulièrement. Mais c'est vrai qu'on a encore besoin d'équipements pour accueillir tout le beau monde de Paris, de l'Île-de-France, pour faire du sport. Au départ, comme vous dites, pour faire du sport loisir, du sport plaisir, du sport vivial. Et puis derrière, il y a des résultats parce qu'encore une fois, il y a des potentialités qui sont là et qu'on fait fructifier grâce aux entraîneurs qui sont, j'allais dire, dans les ligues et dans les fédérations.
Elle a dit... On va te laisser aller au cours d'anglais. Je voulais simplement te dire qu'il y a un beau match entre le Brésil, donc demain au Parc des Princes, et la Tunisie. 20h30, il faut y aller. Le Brésil qui a battu le Ghana 3-0 au Havre en match amical.
Ouais, bon là, ça sera un match
amical.
Marquinhos, Neymar,
mais avec un autre maillot au Parc des Princes.
Ouais. Bon, après, là, je pense que ça sera un petit défilé pour le Brésil quand même, qui sont largement favoris, amical. C'est très bien, voilà. Après, je pense que les deux apprendront comment jouer contre les autres équipes, parce que ce n'est pas des équipes contre qui ils jouent couramment. Voilà. La Tunisie, c'est pas à chaque fois ils vont avoir un match amical. Et la Tunisie, pareil pour eux, et c'est pas tous les jours qu'ils vont jouer contre le Brésil.
Attention, on les a dans le groupe, au mondial en plus.
La Tunisie.
Oui,
on les a dans le groupe.
Ça sera bien d'aller.
Après, je pense que quand même, on a eu un bon tirage sur les équipes africaines, du moins. Sur les 5 équipes africaines, je pense qu'on a le meilleur tirage quand même. On a la Tunisie, je pense que. Voilà.
Oui, parce que je préfère tomber sur la Tunisie que le Maroc. Hein.
Voilà.
Là, en ce moment, le Maroc, ça revient très fort.
Voilà, Maroc qui ont battu le Chili 2-0.
Attention, elle est intime, il se prépare, lui.
Attention.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé en moto? Ça va mieux pour Quartararo,
écoutez,
Valentin?
Ça va beaucoup mieux. Hein, c'est, bon, il y a beaucoup de chance quand même ce week-end. C'était le Grand Prix du Japon 2022. Tout d'abord, on a eu Marc Marquez qui est revenu d'après 3 mois s'être fait opérer pour la 4e fois du bras. Il était blessé, donc le 8 fois champion du monde espagnol est revenu. Il a signé sa première pole depuis 2019, qui était déjà au Japon. C'est sa 63e pole en carrière, donc une performance très impressionnante. Et Fabio, il a été qualifié 9e, il a fini 8e de la course. Et il a gagné 11 points du coup sur Francesco Bagnaia, qui est l'Italien, qui du coup, ils se battent depuis un peu le début de saison, ils se renvoient la balle. et l'Italien parti 13e n'a pas fini la course car malheureusement il est tombé dans le dernier tour de course. Il essaie de, bah, de justement de dépasser
pas
Fabio.
Pas toujours les mêmes. Hein.
Ah, pas toujours les mêmes, mais il essaie de dépasser Fabio. Et là, c'est pas Fabio comme le week-end dernier qui est tombé, c'est lui. Donc,
pas toujours les mêmes.
Il reste 4 grands prix pour les départager. Donc on verra, mais on espère que Fabio va avoir une deuxième couronne.
Le suspense demeure. Donc vous nous parlez de ça.
Là, le suspense, il est à son comble. Et c'est vraiment une saison très intéressante.
Alors, on avait un beau week-end de sport, en plus de la fin de l'équipe de France, hein, de la défaite de l'équipe de France. Il y a eu un record du monde du marathon. À Berlin, on bat traditionnellement toujours et souvent le record du monde à Berlin. Ouais.
Et bah, oui, c'est un record du monde. 37 ans par le coureur kényan Eliud Kipchoge, qui a réalisé un nouveau record du monde. Il avait déjà fait le précédent record du monde. Dimanche en Allemagne, en bloquant la distance mythique de 42,195 km en 2h, 1 minute et 9 secondes. Une performance qui est tout simplement exceptionnelle. Il y a 4 ans, il avait porté le record à 2h, 1 minute et 39 secondes. Donc il bat son propre record à Berlin.
Alors Evelyn, ce week-end, c'était le Paris-Versailles. Hein, là aussi, Paris-Versailles qui est reparti après 2 ans. Et bientôt, on va connaître le parcours du marathon des Jeux Olympiques.
De Paris 24.
Et on devrait emprunter une grosse partie de ce qui se fait sur le Paris-Versailles. Hein.
Absolument,
tout à fait. La fameuse Côte des Gares sur Meudon, là, apparemment, ça va le faire. Hein.
On va effectivement s'appuyer sur ce qui fait déjà chez nous. Et c'est un peu l'idée des Jeux de 2024, c'est de s'appuyer sur tout ce qui existe, que ce soit les équipements, que ce soit les courses qui sont faites comme le marathon. Et je pense que c'est intéressant. Et cette épreuve a la particularité, justement, de pouvoir y associer le grand public, puisqu'on peut encore gagner son dossard pour faire la course. Comme le marathon. C'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, tous les engagés, tous les amoureux de la course peuvent s'exercer et pouvoir gagner leur dossard, leur maillot pour faire en même temps que les athlètes du monde faire en Paris 2024, faire vraiment ce marathon ensemble. Donc c'est quelque chose qui nous va bien parce qu'encore une fois, on embarque tout le monde dans les Jeux de Paris 2024 qui seront une très belle réussite.
Bien sûr, bien sûr. Allez, Thomas Louis, juste un petit mot sur aussi la démonstration de Evenepoel. Quel coureur, quel talent.
Quel coureur, et ben c'est vrai que t'en parles. Je crois qu'il y a Eladji qui doit partir.
Non mais vas-y, termine.
C'est un
d'accord. Termine.
C'est un étage, on le garde.
Moi, tu m'en avais parlé après le Tour d'Espagne. Ouais. Et c'est vrai que c'est un coureur que je ne connaissais pas trop. Et
footballeur. Il a failli être footballeur professionnel en plus.
Ah oui, c'est vrai, je ne savais pas. C'est vrai. Donc je me suis renseigné et j'ai vu qu'il avait eu déjà une grande carrière en amateur, qui ensuite avait été privé de course pendant plus de 6 mois après une grosse blessure
qui a failli perdre la vie.
Donc un retour vraiment maîtrisé et hier, du coup, il a gagné les championnats du monde, excusez-moi, pour la première fois et de manière très impressionnante.
Ah bah il gagne seul, il part à 30 km, seul, il va au bout. Comme il a gagné Liège-Bastogne-Liège, comme il a gagné aussi donc, le Tour d'Espagne.
Deux étapes en plus sur le Tour d'Espagne.
C'est-à-dire qu'il n'y a que les grands qui ont fait ça. Il y a que les très grands qui ont fait une grande classique, un tour. Et un championnat.
Mais il a tout d'un grand, comme tu le dis. J'ai hâte de voir ses choix pour l'année prochaine, hâte de voir s'il va faire le tour, j'imagine. Hâte de voir ce qu'il va faire face à des Pogacar, face à des Vingegaard. Franchement, c'est très excitant.
Voilà, ça nous promet en tout cas de belles années. Voilà, je sais qu'il doit partir, je voulais simplement dire au revoir à Eladji.
Ouais, merci Philippe.
Bon, il y a une belle semaine de foot.
Il y a une très belle semaine de foot. On retrouve la Ligue 1 et tous les autres championnats ce week-end. Et même ce soir, déjà, il y a l'Angleterre à l'Allemagne.
Donc on parlera tout ça la semaine prochaine.
On parlera tout ça la semaine prochaine.
Avec Abou qui se repose de son séjour en Angleterre. Il a beaucoup travaillé.
Il est resté là-bas en fait.
Il est encore là-bas.
Il a beaucoup travaillé. Allez, on va écouter les fans Métaverse. On retrouvera après notre ami Stéphane Desenclos. Et ensuite, on parlera essentiellement et exclusivement du Crozif.
Le ciel est noir, Métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir, Métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, Métales. Et tu te noies dans la paresse. Fin des temps, nouveaux signes apparaissent. Le ciel est noir, à quoi s'attendre, cadaverse. La vie te consomme, c'est pas l'inverse. Mon cœur est noir, pas lavé. Noir et dur, comme si j'aimais pas la vie. Ça me parle politique, je fais comme si j'avais pas d'avis.
et je marche tout seul comme si j'avais pas l'ami. Le ciel est noir, mets ta veste. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur clef, mais t'as l'aise. Et tu veux pas voir la vérité. Peut-être que les catastrophes naturelles sont méritées. De quoi nos gosses vont hériter. Si la terre meurt, qui va dire RIP? Pourquoi y'a des hommes au-dessus des lois? Puis quoi encore, je devrais leur dire, excusez-moi. Y'a ceux qui se croient encore au temps des colonies. Traînez-les sur la place publique, qu'on les nique. Et je me demande si j'ai le droit de dire ça, polémique. Y'en a qui disent bien pire, comme Eric. Je ferai pas de communiquer, je suis pas désolé. Loin de tout ça, je les vois en dézoomé. Le ciel est noir, mets ta veste. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, mais t'as l'aise. Le ciel est noir, mets ta veste. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, mais t'as l'aise.
Voilà, donc écoutez, on va retrouver avec beaucoup de plaisir notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Stéphane, le coup de cœur, le coup de gueule de cette semaine.
Oui, alors déjà Philippe, vous allez être sûrement un peu déçu parce que je ne vais pas vous parler des matchs de l'équipe de France.
Ah bon ?
En tout cas, pas des résultats.
Oui.
Qui n'ont pour moi aucune signification, si ce n'est celle de nous montrer que notre réservoir n'est pas aussi riche qu'on le pense, en tout cas pour certains postes. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu hier soir. Non, ce qui m'a agacé en fait pendant cette semaine internationale, c'est le fait que on ne sait pas pourquoi Didier Deschamps a fait jouer les deux matchs en intégralité, quasiment, à Kylian Mbappé, comme s'il était vraiment à ce point-là indispensable. C'est vrai qu'il est fort, mais bon, avec Aurélien Tchouaméni et Benoît Badiachil, ce sont les seuls joueurs dans ce cas-là. Il est sorti, je crois, pendant les arrêts de jeu contre l'Autriche, Mbappé, sinon il est tout le temps resté sur le terrain. Ouais. Il y avait beaucoup de blessés en défense et au milieu, mais en attaque, moi j'aurais bien aimé voir, par exemple, Christopher Nkunku et surtout Randal Kolo Muani plus souvent. Plus longtemps. Même si on peut penser que sans ces soucis au mollet, Ousmane Dembélé aurait sans doute joué le deuxième match, mais pas sûr toutefois que ce soit à la place de Mbappé. Je pense que ça aurait plutôt été à la place de Giroud. Bref, au-delà de ça, il y a un débat qui m'agace. On en a déjà parlé tous les deux ensemble, hein,
oui.
Philippe.
Oui.
C'est Olivier Giroud, doit-il, oui ou non, aller au Qatar? Alors, ce débat de cours d'école, de bistrot, de bureau, de Twitter, hein, c'est pas péjoratif tout ce que je dis, mais en tout cas il est partout ce débat, il m'agace parce qu'on veut, comme on faisait pour Benzema il y a pas si longtemps, forcer la main à Didier Deschamps. Et surtout, on nous rabâche sans cesse que oui, Giroud doit aller à la Coupe du Monde parce qu'il continue de marquer des buts et que c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais je le répète, comme pour Benzema il y a 2 ans, je dis pas qu'il faut le prendre ou pas le prendre. Le critère sportif n'est pas le seul. Didier Deschamps pense avant tout à l'ambiance dans le groupe et je peux même ajouter autour du groupe. On l'a vu à l'Euro, surtout avant l'Euro, que la présence des deux buteurs dans le groupe pouvait semer quand même un petit peu le trouble. Olivier Giroud a-t-il l'âme d'un remplaçant, d'une doublure de luxe? A-t-il le profil pour rentrer dans un match en 5 minutes et se rendre opérationnel tout de suite? Voilà les questions que se pose Dédé aujourd'hui. Personnellement, je fais quand même partie de ceux qui pensent que ça peut être très compliqué et que peut-être un jeune attaquant haut dans le rond, je pense à Kolo Muani, aurait davantage sa place. Nkunku, par exemple, aussi peut jouer ce rôle. Alors, je rappelle que ceux qui le connaissent pas très bien, il faut leur dire qu'il y a Leipzig qui joue quasiment numéro 9, hein, de l'ancien joueur du PSG. Alors vous l'avez compris, ce qui m'agace, c'est surtout, il est le deuxième meilleur buteur des Bleus, donc il doit jouer la Coupe du Monde. On oublie notamment qu'en Russie, Giroud n'a pas inscrit le moindre but, hein, justement lors de la Coupe du Monde. Une chose est sûre, le débat il va continuer jusqu'à l'annonce de la liste de Deschamps. Vous allez peut-être même en parler ici même, Philippe, elle sera de 26 joueurs début novembre. Donc cette liste en
le
attendant.
9, apparemment.
Comment ?
Le 9 apparemment.
9 le 9, ah, d'accord. Oui. Voilà, c'était des... ok. En attendant, le présent, c'est le retour à la Ligue 1 et aux Coupes d'Europe pour un nouveau marathon, comme la FIFA et l'UEFA aiment nous concocter, des matchs tous les 3 jours, sans doute des blessés ou au moins des joueurs fatigués pour le Qatar. Alors justement, le Qatar, on y vient. Vous savez, Philippe, le nouveau diable personnifié, c'est le Qatar. Personnellement, je n'aurais pas choisi ce pays, moi, pour jouer le mondial, mais on ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit, c'est donc lui qui a été choisi. Enfin, on ne sait pas, on s'en doute quand même un petit peu. Oui. C'était il y a 12 ans, 10 ou 12 ans, je ne me rappelle plus la date exacte, et voilà que c'est maintenant que l'on entend parler de boycott. C'est maintenant que certains se mettent à avoir une conscience. Du coup, la Coupe du Monde, deuxième, quoi, et à égalité avec les Jeux Olympiques, événement sportif le plus suivi, a basculé dans le monde politique. Il y a 4 ans, redites-moi Philippe, on jouait en Russie, hein, je crois, il y a 4
absolument,
ans. La Coupe du Monde.
Absolument.
Voilà, la Russie,
et on y
c'est
était
bien
en
pays.
Plus.
Ouais. Voilà. Et la Russie, c'est bien le pays qui a attaqué l'Ukraine. Ouais. La Russie, c'est bien le pays où les personnages politiques disparaissent au gré de leur prise de position. On a aussi fait les Jeux Olympiques en Chine. La Chine, c'est bien le pays qui persécute les Ouïghours. Allez, bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a des exemples, il y en a plein. Oui, le Qatar n'est pas un pays très recommandable, c'est vrai, mais non, il ne faut pas boycotter. Ou alors, il fallait s'élever beaucoup plus tôt pour tenter de faire changer les choses. C'est mieux que de faire le beau aujourd'hui en criant au scandale. Et qui sait, si on avait fait ça il y a longtemps, peut-être que ça aurait été beaucoup plus efficace. Bon, je vous parlais des Coupes d'Europe, on va y revenir. Après 2 premières journées très controversées, il est temps de passer aux choses sérieuses. Surtout pour l'OM, qui a perdu 41 de ses 75 matchs joués dans son histoire en Ligue des Champions et qui doit absolument en gagner au moins 3 d'ici la fin de la phase de groupe pour rêver et espérer se qualifier pour les 8e de finale. Autant dire que ça va être très compliqué. Les autres, en dehors du PSG qui assure les victoires, pour l'instant en tout cas, ils sont, bah, les autres, ils sont imprévisibles et capables de tout. Mais ça, Philippe, tout Thomas, tout le monde, bah, on en parlera la semaine prochaine.
Absolument Stéphane, merci en tout cas, voilà. Et puis on aura tout plein de choses à parler dans les prochaines semaines, la liste de Deschamps, Giroud, on va se régaler. Merci Stéphane en tout cas, allez, semaine, merci.
Bonne soirée à vous,
voilà.
Au revoir.
Merci. Voilà, merci à notre ami Stéphane Dezenclos, donc notre partenaire du quotidien du sport. Evelyne, vous voyez, il faisait un coup de cœur, coup de gueule, on avait un tout petit peu parlé du Qatar.
Il n'a pas tort, Stéphane.
Alors, comment c'est arrivé pour vous la passion du sport? Comment vous êtes
rentré dedans? Sport, oui, comment vous êtes arrivé dedans? Assez jeune, moi j'ai toujours voulu être professeur de PS.
Ah ouais.
Donc forcément, voilà, avec ce bel élan, moi j'étais 42 ans prof.
Ah oui.
Donc maintenant, j'ai quitté l'éducation nationale, mais je me suis engagée pleinement dans le sport.
Oui.
Voilà, avec un grand S, c'est-à-dire d'un sport transversal. Moi j'ai toujours, en tant que professeur de PS, été dans la transversalité, hein, puisqu'on faisait découvrir le sport à l'école pour l'éducation physique exactement aux enfants. Et moi, ça me va très bien d'être présidente du comité olympique de la région parce que justement, j'ai 84 ligues qui sont adhérentes chez moi. Et donc, écoutez, tous les sports sont magnifiques, merveilleux. Ils drainent beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, puisque le sport, c'est fait pour tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi le secret du sport, c'est que ça peut, j'allais dire, être repris par... tout le monde, puisqu'il y a une telle diversité, un tel élan. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est magique pour moi et qui rassemble toutes les communautés.
Alors, l'ancienne prof de gym que vous êtes ne va pas être insensible. On a reçu le fonds de dotation de Paris 2024 et ils nous ont parlé que maintenant, il y avait 30 minutes obligatoires, enfin, dans les écoles primaires. Ça, c'est une belle avancée quand
absolument,
même.
Absolument, oui, ça, c'est quelque chose de bien. Même, il faudra qu'on... Alors, ça, c'est formidable parce que ça veut dire que c'est inscrit
et
donc c'est fait.
Oui.
Ce qu'il faudra maintenant, c'est qu'on soit, j'allais dire, vigilant à ce que ce soit vraiment de l'activité physique dans toutes les écoles, de manière à ce qu'on puisse permettre aux enfants de se défouler, j'allais dire, pour avoir une bonne santé physique et morale. Et on sait que quand on a un petit peu bougé son corps, on est beaucoup mieux concentré, on écoute beaucoup mieux, on comprend aussi les choses, que ce soit vraiment quelque chose qui soit efficace. Mais là, moi, j'ai toute confiance dans les professeurs des écoles qui vont évidemment avoir cette formation, qui vont peut-être faire aussi appel à des professionnels concernés pour vraiment faire de la bonne pédagogie dans ce domaine-là. Et puis, on va s'orienter également, moi j'en profite pour vous dire, qu'on est aussi sur l'expérimentation des 2 heures en plus au collège.
Ah bien.
Qui sont expérimentées dans quelques collèges pour l'instant. Il y a eu pratiquement 150 lycées, collèges qui ont été intéressés. Et on va en retenir qu'une trentaine pour l'expérimentation. Mais ça va rentrer dans un système de périscolaire, c'est-à-dire que ces 2 heures seront positionnées une fois par semaine entre 15h et 17h. Ce qui va permettre de faire le lien entre l'EPS, l'association scolaire de l'établissement et le club. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur d'avoir cette passerelle qui existe, parce que comme j'ai été professeur de PS, j'ai forcément fait de l'EPS, j'ai forcément fait de l'association sportive scolaire et j'ai fait du club. Oui. Donc du coup, moi, je suis vraiment ancrée dans ce relais qui n'est pas aussi simple que ça à faire, hein, parce qu'on a, voilà, il y a des traditions aussi qui existent, il y a aussi l'ancienneté, mais j'y crois vraiment et je pense que c'est une belle avancée. Moi, je suis vraiment déterminée à mettre tout mon savoir-faire dans cette passerelle qui doit se faire entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe derrière l'école, puisqu'encore une fois, ce sont les mêmes enfants qui passent de l'école à l'association sportive et en même temps au club derrière.
Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on voit souvent Tony Estanguet, hein, il en a parlé, il a dit que la plus belle réussite des Jeux, ce serait que la France devienne un pays où on se bouge physiquement.
Exactement, exactement.
Un véritable pays sportif, quoi.
On n'est pas encore connu comme ça. On est connu pour la culture, on est connu pour le tourisme, on a vraiment de belles choses. Oui. Mais on n'est pas encore un pays sportif parce que, justement, peut-être qu'on n'a pas assez pris la mesure pour notre jeunesse de dire que le sport, c'est indispensable. Et je pense que même à l'éducation, on devrait redorer les enfants qui sont bons dans le sport parce que, justement, on peut, grâce au sport, les remettre dans un circuit d'apprentissage d'aller d'autres matières. Et peut-être qu'on n'a pas encore assez travailler ensemble. Moi, je crois vraiment au fait de travailler ensemble sur le plan professeur de PS et en même temps entraîneur de club. D'abord, il y a des personnes qui doublent. Hein. Moi, j'ai longtemps doublé ce poste parce que, justement, on a la fibre éducation physique, activité physique et sport. Et je crois que ça doit être travailler ensemble.
Moi, je suis d'accord sur l'importance du sport. Et il y a quelque chose qui me désole, et on en avait déjà parlé avec les personnes de Paris 2024, c'est que le sport disparaît totalement après le lycée. C'est-à-dire que le sport devient qu'une option où il n'y a rien d'obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des personnes, du coup, que ce soit à la fac ou en école privée, qui font du sport. Et même pour les personnes qui veulent faire du sport, dans certaines écoles, ce n'est même pas possible. Donc moi, c'est ça qui m'alarme peut-être aussi sur la continuité après le lycée.
Vous avez raison, c'est vraiment un point qui est important et sur lequel on n'a pas encore réglé tous les problèmes, parce qu'avec l'heure d'aujourd'hui, le sport est relativement bien fait jusqu'au lycée, bien qu'il diminue. Hein, malgré tout, on voit bien qu'au collège, en 6e, on a 4 heures. Ensuite, à la fin du collège, on a 3 heures. Et ensuite, on a 2 heures. Donc, ça veut dire que ça diminue alors que les enfants sont en pleine adolescence, sont en pleine transformation physiologique. Et là, moi qui suis une femme, j'en suis encore peut-être plus sensible parce que c'est vrai qu'il y a un vrai arrêt au niveau des femmes. Et on voit que dans l'activité physique, même dans les clubs, on voit une grosse diminution de la pratique féminine. Donc, je pense que ça doit être renforcé. On doit permettre à tout le monde de continuer le sport. Et c'est vrai qu'après, après le lycée, il y a un vrai trou. Les gens s'orientent dans leurs études universitaires ou dans les apprentissages diverses et variées. Et le sport n'est plus du tout une matière qui est obligatoire, alors que ça l'est quand même avant. Et du coup, les gens, ils sont pris dans leurs études et ils ne reprennent qu'après. Mais il y a un gros vide qui ne permet pas justement de faire un vrai travail de longue durée sur toute sa vie. En fait, le sport, c'est toute sa vie. Et si on fait du sport toute sa vie, on se préserve d'une belle autonomie, une vieillesse beaucoup plus longue, avec quelque chose où on pourra vraiment être bien dans sa peau le plus longtemps possible, vivre chez soi. Et c'est ce qu'on cherche. On critique en ce moment les EHPAD, etc., parce que ce n'est pas aussi humain que chez soi, on l'a bien compris. Sauf que pour rester chez soi, il faut avoir une possibilité physique et mentale de pouvoir rester chez soi. Or là, on est en train de massacrer effectivement un moment de sa vie où on est en train de se construire sa vieillesse. Oui. Et ça, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et le milieu universitaire doit être beaucoup plus entendu et beaucoup plus, j'allais dire, écouté par rapport à ces étudiants qui n'ont que 18 ans, en fait. Hein. C'est ça, quand on a le bac, c'est 17-18 ans.
Et puis aussi, toutes les valeurs éducatives, Evelyne. Hein. On parle de tellement de dérives actuellement au niveau des véritables valeurs. Toutes les valeurs, on les retrouve dans le sport.
Absolument. C'est ça. Hein? De toute façon, les valeurs olympiques, oui. Hein, c'est simple, c'est l'excellence, bien sûr, puisqu'on a les champions olympiques, mais on a aussi le respect et l'amitié. Et on a derrière toutes ces valeurs de convivialité, de socialisation, d'émancipation. Mmh. Et on travaille vraiment pour que cette jeunesse puisse découvrir le sport avec tout ce que ça apporte en dehors de faire du sport. Il n'y a pas que des champions. Hein, les clubs, ils ne font pas que des champions. Il y en a certains clubs qui font des champions, bien évidemment. Mmh. Mais il y a tout un tas de clubs aussi qui préparent les jeunes à être mieux dans leur peau et à mieux surtout vivre avec les autres et de pouvoir s'intégrer dans une société quelle qu'elle soit et sans arrière-pensée, sans rien du tout. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas pris la notion des valeurs de républicaines, les valeurs de laïcité, toutes les valeurs citoyennes qui vont faire que chaque individu va se respecter et va pouvoir prendre sa place dans la société. Et je crois que c'est cet axe-là qu'il faut qu'on développe.
Ah oui, le mélange des autres, le respect de l'autre, le respect des horaires, le respect de... Voilà, quoi.
C'est ça. C'est la vie en communauté, quoi. Le mieux vivre ensemble, ça passe par le sport.
Alors, donc, vous commencez... Donc, vous êtes prof de gym, vous commencez dans le sport, c'était quoi ? Natation, non ?
Moi, c'était la gymnastique au départ.
La gymnastique au départ.
La gymnastique au départ et très vite la natation. Ouais. Donc maintenant, j'ai fait des compétitions hein, comme tout enfant. Parce qu'à l'époque, le club, c'était un peu que les compétitions. Maintenant, nous sommes en train de transformer le club, justement.
Il y a une telle demande maintenant.
Voilà, le club a vraiment ouvert ses portes parce qu'il y a de la compétition. Certes, ça restera peut-être le cœur d'un club, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres facettes dans un club. Donc du coup, moi, j'ai fait des compétitions. Mais j'ai tout de suite compris que le sport allait apporter autre chose à tous ceux qui en faisaient. Et du coup, moi, je me suis plutôt orientée vers la création d'un club omnisport qui permet justement de pouvoir accueillir plus de 1600 personnes aujourd'hui. Donc, c'est quand même un club important. Mais ça me permet aussi de pouvoir être auprès du terrain parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est dans les hautes sphères dirigeantes qu'il faut perdre le terrain. Parce que sinon...
C'est souvent le problème. Hein.
Voilà, la jeunesse évolue très vite, les demandes évoluent très vite et il faut qu'on reste en contact avec la population de manière à répondre aux attentes de la jeunesse génération qui, comme je viens de le dire, évolue très, très vite. Donc, c'est pour ce fait que j'ai pris cette or. Alors, j'ai pris aussi l'arbitrage parce que je pense qu'on oublie toujours que les compétitions se passent bien parce qu'il y a les règlements qui sont connus, bien évidemment, par les entraîneurs et les jeunes qui pratiquent. Mais par contre, on oublie toujours que sans arbitre, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir valoriser tout ce secteur-là qui permet, encore une fois, que les choses se passent le mieux possible et que ça permette justement de pouvoir s'engager dans des rôles différents. Et je pense que tout le monde a sa place dans un club de sport.
Alors, vous avez voué toute votre vie au sport et ça vous amène à la tête du CrossFit. C'est arrivé comment ?
Alors, c'est arrivé, écoutez, moi j'ai commencé comme tout le monde, bénévole, en donnant des dossards au CrossFit Figaro.
C'est le but du sport français,
Moi j'étais bénévole au CrossFit Figaro en distribuant des dossards à ceux qui existaient. C'était dans le bois de Boulogne à l'époque.
Le célèbre CrossFit Figaro du mois de décembre.
Exactement, du mois de décembre. Il faisait pas très chaud à ce moment-là. Mais voilà, moi j'étais contente de pouvoir voir le sourire des gens qui étaient contents de courir dans le bois de Boulogne. Et puis finalement, j'ai rencontré des dirigeants du cross et puis voilà, je suis rentrée pour simple bénévole et puis ensuite j'ai pris ma place en tant que dirigeante, secrétaire générale adjointe, secrétaire générale et puis en 2013 présidente de cette belle maison qui rassemble 2 400 000 de licenciés, 19 400 clubs. Donc en Île-de-France, c'est la grosse région au niveau du sport. Bon voilà, les autres régions aussi, mais je pense qu'on est la région capitale et ça se sent et c'est vraiment quelque chose de passionnant.
Alors, le siège, il est tout près de chez Jason, à Gentilly.
Exactement.
Hein, mais vous allez déménager, vous allez arriver dans le 13e.
Alors, voilà, dans quelques temps, on va arriver dans le 13e arrondissement. On devrait y arriver en 24, je pense. Oui. On va s'installer dans un lycée désaffecté pour l'instant. Et à l'initiative de la région Île-de-France, d'ailleurs, qui voudrait positionner le mouvement sportif régional que je représente. Et on sera associé à la Maison des Outre-mer.
D'accord.
Donc voilà, ce sera une double facette de ce beau bâtiment.
Ils ont tellement donné au sport.
Ils ont tellement de pépites. J'en profite pour dire que dans les sites olympiques, on a voté pour Tahiti parce que justement, on voulait que les Outre-mer soient présents avec nous parce qu'ils sont vraiment pourvoyeurs de médailles. Ils ont vraiment des gens exceptionnels et ils méritaient d'avoir un site olympique. Et on sait aussi que le relais de la flamme passera chez eux parce qu'ils sont français comme nous. Bien et sûr. On voulait vraiment qu'ils soient associés à la fête parce qu'on a attendu 100 ans, donc on n'est pas prêt de revoir les Jeux. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit de la fête en 2024.
Et je suis sûr que nos jeunes, là, ils veulent aller sur Tahiti, là, sur les événements sportifs.
J'aimerais bien.
Il faut savoir surfer pour aller à
On apprend vite, je pense.
Alors, vous avez une équipe à vos côtés. Hein, à Gentilly.
Bien sûr, alors une équipe, bien sûr, ouais. Une association, ça a toujours une équipe, hein, c'est un président, mais ça a des vice-présidents, ça a un bureau, c'est un conseil d'administration. Tout ça, ça dirige un petit peu la politique de la maison, qui évidemment, notre politique, ben, c'est de pouvoir garder l'intérêt du sport en Île-de-France, de pouvoir garder l'esprit sportif, de pouvoir entraider... s'entraider, j'allais dire, pour développer le sport. Et puis nous, on est là pour mettre du lien entre les différentes disciplines, hein, puisque nos disciplines, au nombre de 84, représentent évidemment la délégation francilienne des fédérations. Alors on a des collèges olympiques, des collèges sportifs, c'est-à-dire des sports unisports, mais qui ne sont pas olympiques. Et puis on a le collège des universitaires, scolaires et élémentaires. Et puis on a aussi le collège des multisports et affinitaires. Donc tout ce petit monde-là s'entraide et arrive à faire des championnats, des compétitions, mais en même temps on développe beaucoup de secteurs comme le sport santé, qui est quelque chose qui nous tient à cœur, et puis surtout accueillir tous les publics valides, non valides, voilà, qui sont vraiment des publics à prendre en compte. Et là, le club d'aujourd'hui, le club de demain, met vraiment en place toute cette dynamique.
Et vous êtes ouvert donc toute la semaine. Vous êtes joignable. On peut venir à vos bureaux.
Alors vous pouvez venir dans nos bureaux. Il n'y a aucun souci. On est joignable. Alors bien évidemment, on a un site internet qui est le Crosif. Mais donc c'est ROSIF qui représente notre sigle. Et évidemment, on peut venir dans nos bureaux, mais nous, dans nos bureaux, on est plus là pour, j'allais dire, aller sur l'extérieur, parce que notre rôle, c'est plutôt d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre de ceux qui font le sport d'aujourd'hui, de demain, et de pouvoir les aider. Alors, soit sur des formations, parce qu'on veut qu'ils soient professionnalisés au maximum, soit les aider à développer des secteurs sport santé, soit faire des expositions sur l'olympisme, puisqu'on a mis maintenant en place des ateliers qui permettent justement de pouvoir découvrir l'olympisme. On a aussi la relation avec les ambassadeurs qui vont dans les écoles, parce qu'on est vraiment conscient que les modèles qui sont pour nos jeunes élémentaires ou collégiens sont vraiment les athlètes de haut niveau qui ont évidemment passé leur jeunesse à faire leur sport, mais qui en même temps ont des vraies valeurs et qui sont pour nous des modèles. Donc on les envoie dans les écoles pour justement porter la bonne parole et tout ce que le sport a apporté à ces jeunes qui n'ont que 20 ans, mais qui ont un passé exceptionnel dans leur sport de prédilection.
Alors, on va justement développer tout ça. Donc, vous représentez effectivement le mouvement sportif d'abord auprès du pouvoir public.
C'est ça.
Ouais. Donc, c'est une question d'intérêt général.
Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui. Alors, nous, on travaille vraiment aux côtés de l'État, bien évidemment. On a toujours travaillé avec l'État. On travaille avec la région, puisque moi, c'est mon niveau régional.
Bien sûr.
Et puis, on travaille maintenant avec les collectivités territoriales et avec le monde économique via une grande installation qui est la nouvelle gouvernance du sport, qu'on appelle l'Agence nationale du sport, et qui a, fait des déclinaisons au niveau territorial. Et donc, ces déclinaisons sont extrêmement importantes parce qu'elles englobent le mouvement sportif, bien évidemment, l'État avec qui on a toujours travaillé, la région et les collectivités territoriales qui sont arrivées dans un deuxième temps pour travailler avec nous. Là, je vous parle de l'ancien temps. Et puis le monde économique, on ne connaissait pas. Donc moi, je suis très, très enthousiaste sur cette déclinaison parce qu'encore une fois, tous les acteurs qui ont la fibre sport dans le même territoire sont autour de la table pour pouvoir travailler ensemble, faire des projets communs et pouvoir répondre aux attentes de nos quatre collèges.
Et tout ça, ça arrive à bien travailler, à bien fonctionner ensemble.
Alors, tout n'est pas installé encore en région. Hein, territorial n'est pas encore installé partout. Nous, on n'a pas été les derniers, loin de là. On s'est installé en mai 2021 à la conférence du sport, et la conférence des financeurs vient de s'y adosser le 9 mai dernier. Donc du coup, on travaille de commun accord, d'autant plus que notre préfet Marc Guillaume a souhaité mettre des représentants régionaux à la tête de cette maison. Et je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet d'embarquer toutes les collectivités territoriales qui sont nombreuses, notamment en Île-de-France, qui sont diversifiées, mais qu'on va rassembler grâce au sport. Et c'est ça aussi que je souhaite, c'est que cette magie puisse opérer de manière à ce qu'on gomme toute différence, absolument toute différence, quelle qu'elle soit, et que le sport soit rassembleur. Bien sûr. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très, très attentif. Mais je pense qu'on a pris cette mesure-là et on y mettra toute notre énergie. Oui. Toute notre
Alors
énergie.
Ça, c'est la sauvegarde et puis finalement, le développement de l'esprit olympique.
Généré
par le CNOSF, notamment.
Absolument. Alors, le CNOSF, c'est la maison mère, bien sûr. Nous ne sommes que des organes déconcentrés du CNOSF. Ouais. C'est-à-dire
on essaiera, d'avoir Brigitte...
La présidente Brigitte Henriquez, exactement. Qui sera sûrement un bon relais. Vous savez qu'elle vient du foot, dame qui vient de la plus grosse fédération. Et donc nous, en tant que comité olympique régional. Nous sommes l'organe déconcentré du CNESF. Il y en a un par région, bien sûr. Et adossé à ça, donc un deuxième organe déconcentré, qui n'est pas des moindres, c'est les comités départementaux olympiques, qui sont donc, eux, sur le plan départemental, mais qui génèrent un tissu local très important. Et nous, dans chaque région, on a créé ce qu'on appelle les conseils des présidents, c'est-à-dire le comité régional et les comités départementaux. Chez nous, on en a 8, donc on est 9 autour d'une table. Et à nous 9, on a donc créé un plan olympique sportif territorial qui nous appartient. Chaque région a fait la même chose. D'accord. Mais à l'intérieur de ça, on a déterminé ce qui était bon pour notre région et on le décline au niveau régional et au niveau départemental. Ça veut dire qu'on est main dans la main pour décliner ces opérations-là. Alors, les délégations sont très simples puisqu'elles sont celles qu'on voit tous les jours. Il y a la formation, il y a l'éducation, la citoyenneté, le haut niveau, les politiques publiques et puis la santé, bien-être. Donc ce sont des déclinaisons qui sont connues maintenant dans tous les clubs et qui sont donc vécues du local jusqu'au niveau national. Donc il y a une vraie structuration qui est mise en place et qui nous permet de pouvoir, j'allais dire, arriver sur les territoires avec le même état d'esprit et la même envie de pouvoir le développer pour tous et pour toutes, sans oublier personne, ni dans les lieux éloignés comme les quartiers dans lesquels on travaille beaucoup, ni dans les zones rurales où il y a moins de possibilités, ne pas oublier non plus les personnes qui sont assez âgées et qui sont aussi éloignées. Donc voilà, il faut vraiment que le sport fasse partie du quotidien de chaque individu et c'est un peu l'enjeu de l'héritage qu'on souhaite pour Paris 2024.
Il y a des comités départementaux avec lesquels c'est plus difficile de travailler.
Oui, c'est forcément.
Des
c'est régions, forcément.
Des secteurs, des moyens, peut-être aussi. Quoi.
Oui, les moyens et puis l'étendue. Je pense par exemple au 77 qui a un immense département. Immense, et il fait presque 2 départements à lui tout seul, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais d'un autre côté, on est là aussi pour s'entraider, on est là aussi pour s'épauler. Et c'est ça, on forme une équipe. Vous savez, dans le sport, il y a beaucoup de sports d'équipe. Il y a le sport individuel aussi. Mais même dans les sports individuels, moi j'en ai fait un, je suis de la natation. Donc c'est au départ un sport individuel. Mais ce qu'on aimait le mieux, c'était les compétitions d'équipe ou bien les relais.
Oui, il y a des
parce
relais.
Que voilà, on nage pas que pour soi. Enfin, on ne fait pas un sport que pour ça, on fait aussi pour l'autre. Et je crois qu'on se transcende plus quand on est par équipe, quand on est tout seul.
Alors justement, tiens, c'est une question que beaucoup de responsables sportifs aujourd'hui ont des problèmes. C'est qu'on a le sentiment que c'est un petit peu un moyen de consommation, le sport.
Ça peut l'être, ça peut l'être.
Parents,
c'est vrai que...
voilà, y a pas
oui,
assez de,
c'est,
voilà,
c'est vrai.
Il y a beaucoup de responsables qui, des fois, se plaignent justement. Ces valeurs collectives, on ne les retrouve pas. Chacun fait son sport, s'en va, puis voilà.
Alors, le sport, au départ, si vous voulez, ce n'est pas du tout de la consommation. C'est vraiment...
Oui. On arrive... Mais ils ont ce sentiment-là, parfois.
Mais ça peut arriver. Ouais. C'est-à-dire que là, il faut que les dirigeants que nous sommes, il faut qu'on remette bien, j'allais dire, l'église au milieu du village, dans la mesure où on veut vraiment que le sport garde ses valeurs de départ, c'est-à-dire l'accueil pour tous. Et moi, l'idée, c'est que le sport puisse être accessible à tous. Même si on pouvait offrir le sport dans les clubs, ce serait formidable. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de distinguo disant ben voilà, le club est trop cher, etc. Mais il y a quand même des dispositifs. Je pense par exemple au passeport qui est installé pour la deuxième année par l'État. Ça, c'est le président de la République qui s'est engagé à ça et qui fait un bien fou parce qu'encore une fois, ça aide les personnes qui sont en difficulté financière puisque c'est donné à tous ceux qui ont l'allocation familiale. Donc ça, ils ont 50 euros de déduction pour la licence sportive, ce qui leur permet de faire du sport à moindre coût. Vous me direz, c'est toujours encore trop cher, il faudrait que ce soit offert. C'est encore pas le cas, mais on essaye par des moyens et puis il y a les collectivités qui aident beaucoup parce que ce passeport de 50 euros donné par l'État, il s'additionne avec ce qui est donné par les collectivités territoriales, les mairies, les départements qui aident les leurs. Donc du coup, ça diminue grandement et ça permet d'avoir quand même bon nombre de jeunes qui peuvent s'offrir, j'allais dire, l'activité sportive comme on voudrait bien que ce soit pour
tout le monde. Oui, puis c'est pareil pour les transports. On a quand même fait en sorte que les transports soient de moins en moins onéreux maintenant.
Alors, c'est moins onéreux. Oui, c'est encore pas si simple que ça. La mobilité en Ile-de-France, c'est encore pas ça. On progresse régulièrement. On voit bien que les avancées sont faites. Mais on vient tellement de loin que malgré les avancées, ça reste encore difficile. Et on espère que, voilà, avec peut-être que Paris 2024 va aussi accélérer cette mobilité. Mais il faut qu'on reste dans cet héritage. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas que les Jeux 2024 soient un objectif jusqu'à 2024 et que derrière, il n'y ait pas le relais. Il faut vraiment, et nous, ça, c'est notre rôle de préparer l'héritage pérenne de manière à ce qu'on puisse rentrer dans une dynamique, comme vous l'avez dit, qu'on devienne un pays sportif parce qu'on va mettre en place des choses, mais on doit s'inscrire dans une durée et parce que ça ne sera pas fait en 2 ans. Non. Il faut vraiment que ça soit sur plusieurs années.
Et donc, faciliter et favoriser la pratique du sport en Ile-de-France, c'est ce que vous venez de dire.
Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment qu'on favorise et qu'on soit tous vigilants pour qu'on puisse, encore une fois, être à l'écoute. Alors, de tous et toutes, c'est compliqué, mais il y a quand même des groupes et des demandes qui sont différentes. Maintenant, je crois que les publics sont bien identifiés, les publics sont demandeurs, puisqu'ils savent qu'ils peuvent avoir des possibilités de sport. Donc, nous, il faut qu'on aille dans les entreprises. Ça existe, le sport en entreprise, oui, ça existe. Oui, oui, oui. Ça existe aussi pour les sports qui sont pour les personnes handicapées. Oui, ça, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement engagé, parce qu'encore une fois, c'est du sport pour tous, et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler de manière à ce que les Jeux, bah, comme ils vont être avec une seule équipe de France, c'est pas anodin ce que je vous dis, c'est la première fois qu'on aura une seule équipe de France.
Mélanger sport et handisport.
Voilà, c'est vraiment cet enjeu-là. On va faire vraiment des Jeux qui sont ensemble. On va faire une cérémonie d'ouverture pour chaque, bien sûr, une cérémonie que tu préfères, mais ce sera dans le même état d'esprit. Et on est vraiment très, très liés avec l'Olympisme et le Paralympisme de manière très, très affichée pour 2024.
Voilà, bah, on va revenir sur tout ça en détail, sur toutes ces différentes actions. On va écouter la deuxième pause musicale, hein, après, donc. Donc les FA Metaverse, on écoute Kanye West, FAD, et puis on se retrouve pour parler de la suite des grandes actions du CROSIF.
Your love is fading. Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade.
When no one ain't around.
I feel it fade.
I think too much.
I feel it fade.
Well, ain't nobody watching.
I feel it fade.
I just fade away.
I feel it.
Fade away.
I feel it. I
fade away, yeah, yeah, yeah. I think too much.
I feel it. Your love is fading. I feel it.
Roll up, roll up, hold up, hold up, pull up, pull up.
I feel it.
I love it. I wanna. I'm tryna
feel it.
I'ma rock the boat, work the middle till it hurt
I
a
feel
little.
It. Your love is fading. I feel it.
Fuckin' with a real ass nigga.
I feel it.
Fuck, can you feel ass nigga?
I feel it.
Better act like you know better.
I feel it.
Whoa. When no one ain't around.
I feel it fade.
I think too much.
I feel it fade.
Ain't nobody watching.
I feel it fade.
I just fade away.
I feel it fade.
Alors cette émission, bah, vous pouvez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison, et puis celle aussi de la saison dernière. Evelyne, être bénévole, c'est un sacerdoce, hein. Hein,
oh, je ne vais pas dire ça, bah, j'ai si, pas si, ça. Mais c'est la passion qui
bah,
nous
oui,
anime.
C'est la passion.
C'est la passion des autres.
Ça prend du temps. Oui, on ne voit pas des fois ses enfants grandir.
Mais on a
mais bon.
Tellement de bons amis. Vous voilà. savez, c'est une famille voilà. sportive. On a ouais. sa famille de cœur et de sang. Mais on a aussi sa famille sportive. Et c'est une passion. Alors, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup. Vous savez, en donnant, on reçoit beaucoup. Moi, je suis persuadée de ça. Moi, ça fait des années que je fais ça. Plus de
beaucoup
l'oublie
dans la vie, ça.
Ben oui, oui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis qu'on se fait et avec lesquels on travaille avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que c'est du bénévolat et il faut le savoir qu'il faut donner de son temps. Voilà. Alors après, il y a des degrés différents. Il y a des gens qui sont bénévoles ponctuellement. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça va plutôt bien. On a des gens qui sont réactifs quand on leur dit voilà, il faut travailler une semaine sur un événement. Oui. Le plus difficile qu'on va rencontrer, et je trouve que ça s'est bien accentué avec cette pandémie là où
maintenant.
Les gens ont repris un peu leur vie privée, c'est le bénévolat de dirigeant qui est là pour au moins une Olympiade. Ouais. Donc c'est 4 ans et c'est quand même c'est quand même beaucoup de temps à donner. Alors évidemment, c'est une passion pour celui qui le vit, mais il y a aussi l'activité pour les plus jeunes. Tout le monde n'est pas à la retraite. Hein. Deuxièmement, c'est aussi des vies de famille qui sont évidemment entachées par le fait qu'il y a beaucoup de temps à donner. Mais alors voilà, après, il faut essayer de jongler avec tout ça. Mais on a quand même besoin de ces bénévoles, on a quand même besoin de ces personnes actives parce qu'il ne faut pas non plus que le mouvement sportif soit dirigé que par des retraités. Sinon, on perd aussi la notion de la réalité parce que, comme je vous ai dit, ça change beaucoup. Donc, on doit avoir les deux. C'est pour ça que plus on est, mieux c'est parce que quand on est beaucoup, on se partage les tâches. Quand on est moins nombreux, forcément, les tâches sont les mêmes et il y a plus de travail pour ceux qui sont dans le cœur du système.
Oui. Et justement, au CROSIF, vous dispensez des formations pour les bénévoles et les dirigeants sportifs.
Absolument.
Parce que ce n'est pas évident. Hein. Et puis, c'est une responsabilité quand même.
C'est une responsabilité maintenant, absolument.
Dans la gestion,
alors, on fait
dans
des formations. Alors, des formations dans tous les
juridique,
domaines. Hein.
Juridique, non ?
Alors, juridique, oui. absolument. Oui. On fait des formations juridiques. On fait des formations, par exemple, pour devenir trésorier ou pour devenir secrétaire général, pour aider les gens. Et. On fait aussi maintenant des formations. Alors, avec la pandémie, on a appris à faire des formations en distanciel aussi. Oui. Donc, ça aide aussi parce que ça permet aux gens de les faire chez eux ou en présentiel. On va aussi dans les structures pour en faire, c'est-à-dire qu'on se déplace. Nous, on trouve les intervenants et on trouve aussi les thèmes qui sont appropriés à la demande de nos ligues ou des comités régionaux qui sont chez nous, de manière à ce qu'on puisse aussi répondre à leurs demandes. Mais il y a un panel énorme de comment parler en public, comment investir dans tel et tel secteur pour qu'on puisse justement drainer une certaine population. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de formations qui sont sur notre site et qui sont à disposition.
Réagir aussi parfois aux insultes qu'on peut avoir, non ?
Il y a un guide qui existe.
Pas, et
qui,
répondre, ouais.
Oui, absolument. Et en général, toutes les formations qui sont dispensées reçoivent un bel engouement parce qu'encore une fois, ce sont des spécialistes sur cette thématique qui sont proches du terrain et qui peuvent parler. Et on a aussi mis en place, et qui marche très très bien, c'est ces formations sport-santé qui donnent une compétence particulière à la personne qui est qualifiée puisque cette personne va avoir cette qualification, cette compétence. Et quand elle est ensuite entraîneur dans un club, elle va pouvoir donner, j'allais dire, un accueil public particulier. C'est-à-dire qu'elle va se spécialiser pour accueillir, par exemple, des personnes en situation d'obésité ou bien des personnes qui sont diabétiques. Et donc, elle va savoir les apprivoiser, j'allais dire, pour qu'elles puissent faire du sport à son niveau, à son rythme. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment parti sur du sport santé, mais presque du sport sur ordonnance. Mmh. Parce qu'on a mis en place, justement, cette relation entre le patient, le médecin, qui suit le patient et le club qui va accueillir. Et donc, on peut justement faire cette
jonction. Son corps, pour bien connaître sa pratique aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Il faut que les gens, que ça soit bénéfique pour tout individu. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, il faut qu'on ait des gens qui connaissent les difficultés rencontrées de manière physique, de manière à ce qu'on puisse les aider. Et puis, on est un peu ouvert. C'est pour ça que je dis, le club, c'est vraiment ouvert avec des qualifications qui sont données à des entraîneurs et qui sont donc référencées dans les clubs.
Et ça, les actions sport santé, c'est à travers des colloques, c'est à travers des conférences.
Alors oui, il y a des tas de conférences.
Qui sont faites dans tous les comités départementaux.
Voilà, c'est ça. Il y a des relais. Et comme vous avez annoncé tout à l'heure le podcast, ça peut être revu en permanence. Là, c'est pareil. On a des visios qui passent, mais qui peuvent être réécoutés. Et c'est ça aussi l'intérêt de la nouvelle technologie. Voilà, moi, je ne suis pas toute jeune, mais je reconnais que la nouvelle technologie apporte des choses supérieures parce que justement, on peut réécouter des choses quand on n'est pas directement à l'écoute. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et là, on a vraiment toute possibilité de soutenir des gens qui ont envie de donner un petit peu de temps ou beaucoup de temps. Voilà, chacun donne le temps qu'il peut donner. Mais encore une fois, le fait de s'engager, c'est déjà faire partie de la famille sportive.
Oui. Alors, il y a des actions, vous l'avez dit aussi, sport pour tous, notamment sur le sport féminin, sur les sports aussi des personnes défavorisées. Je sais qu'il y a eu des actions avec aussi la Française des Jeux. Hein, on y était. Et puis Paris 2024.
Alors, vous touchez ouais. un point sensible ouais. parce que ouais. moi, ça fait des années que je suis ouais. dans ce milieu. Et j'ai été happée par le fait que je m'étais rendu compte que les jeunes filles, notamment l'adolescence, n'étaient pas du tout inscrites dans des clubs ouais. parce que, bon, elles se transformaient, mais elles avaient pu. Elles n'étaient pas bien dans un club. Du coup, on a mis en place des opérations spécifiques pour les jeunes filles, et en particulier adolescentes, donc, et en particulier dans les quartiers, de manière à ce qu'on puisse faire venir tout le monde dans le sport et grâce au sport. Donc, et ça continue. Et ça continue ouais. pourquoi ? Parce qu'on n'est encore pas arrivé à 50% de filles dans les clubs. Oui, donc, tant qu'on n'a pas 50%, on monte, mais ça monte 1% par 1%. Donc, on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Mais ça fait plus de 25 ans qu'on fait ça. Et à chaque petite vacance scolaire, y compris les grandes vacances d'été, nous faisons les sports en, ça s'appelle comme ça, sport en filles. Et on a maintenant multiplié les sports en avec le sport en mixte pour accueillir garçons et filles parce que la société fait que. Voilà, quand on est passé par sport en filles, on peut faire sport en mixte. Et puis, on fait sport ensemble pour accueillir les valides et les handicapés, de manière à faire du sport ensemble. Parce que l'idée de faire du sport, quand on n'est pas champion, c'est de faire du sport ensemble, de manière à ce qu'on puisse partager les valeurs du sport. Et donc, la féminisation, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a mis pour la féminisation aussi les trophées de femmes en or, manière à ce qu'on puisse mettre, par l'intermédiaire de nos ligues, des femmes qui sont exceptionnelles et qui sont particulièrement engagées, mais qu'on ne voit jamais parce que les femmes sont discrètes, elles n'osent pas. C'est encore... Vous savez, il y a toute une éducation à faire encore pour que la femme prenne sa place. Et on a aussi... j'allais dire dans la loi qui est passée dernièrement, toute cette féminisation qui devait être mise en place, puisqu'on sait qu'au prochain mandat, dans le prochain Olympiade, toutes les fédérations devront avoir dans leur conseil d'administration une parité totale.
50-50. Voilà.
Donc il va falloir qu'ils trouvent des femmes qui s'engagent pour une Olympiade entière. Mmh. Et ça, pour certaines fédérations, ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires à l'heure d'aujourd'hui. Donc les formations... On les aide aussi, les femmes, à pouvoir, prendre leur place. Je sais que le CNESF a un vrai relais aussi.
Il y a une présidente en plus maintenant.
Comment ?
Il y a une femme présidente.
Il y a une femme présidente.
Ah, donc, elle
va donner le ton et elle a mis en place 300 dirigeantes qui vont être épaulées aussi. Donc nous, voilà, on relaie un peu toutes les actions du CNESF, qui est notre rôle. Et donc toutes les jeunes femmes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire du sport à un niveau quel qu'il soit, on va les aider justement à prendre des positions et pouvoir donner leur avis qui est tout à fait attendu et qui sont tout à fait pertinents.
Oui, parce qu'on a appris à cette matinée de la Française des Jeux, que c'était au mois de février ou mars, qu'il y avait des femmes qui, dès qu'elles étaient mamans, n'osaient plus aller faire du sport. Absolument. Ou avaient des problèmes pour faire garder leurs jeunes enfants. Donc, elles s'excluaient d'elles-mêmes.
C'est ça. Une pratique, comme on a dit tout à l'heure, il faut que ce soit continu.
Ou alors,
pour
effectivement, que ce soit efficace, elles étaient trop fortes, elles n'osaient pas se montrer.
Mais ce n'est pas du tout un drame d'avoir un enfant. Bien au contraire, ça fait partie de la vie, on est ravis. Oui. Mais il faut leur permettre justement de pouvoir continuer parce qu'elles vont d'ailleurs récupérer beaucoup plus vite. Donc, elles seront bien plus actives tout de suite. Et en même temps, c'est la vie. Et comme on dit, un enfant, ça fait partie d'une vie de famille, c'est un homme et une femme, donc il faut aussi que la dame puisse mais je pense que maintenant la nouvelle génération est beaucoup plus
elle veut tout faire, la nouvelle génération, c'est bien,
mais la nouvelle génération d'ailleurs les jeunes papas sont vraiment maintenant bien dans la vie de famille et soutiennent bien leur épouse. Mais je pense que la femme, pour pas qu'elle sexue, elle a le droit, comme tout à chacun, de continuer son sport. Elle en a fait jeune, et elle doit continuer à l'université quand elle est maman et puis ensuite quand elle est plus âgée, donc c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie d'un quotidien pour tous et tous.
Alors, vous parlez du sport handicap, on en a parlé. Vous pensez que le regard change, ça bouge, ça évolue. On en avait parlé avec Riyad Salem, qui était venu à ce micro au mois de mai. On voit de plus en plus de manifestations à la télé, on en parle davantage. Ça aussi, c'est un long combat.
Oui, moi, je vous dis que ça change, et ça change parce que, je reprends ma casquette de professeur de PS. Avant, on n'avait jamais un enfant handicapé dans nos classes, jamais. Ils existaient quand même, il y en a toujours eu. Maintenant, ils rentrent dans les classes, bien sûr, et ils rentrent aussi dans les cours de PS. C'est-à-dire que maintenant, les cours de PS sont faits aussi ensemble. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis moi, je vous dis oui, parce que effectivement, je vous parlais tout à l'heure de l'équipe de France unifiée. Ça aussi, ça compte parce que ça veut dire que c'est un vrai modèle et ça tire vers le haut. Mais en même temps, on a aussi cette jonction entre le comité national olympique et le comité paralympique qui se travaillent ensemble. Et donc, ça draine derrière des manifestations qui sont ensemble. Moi qui suis avec la Conférence mondiale du sport, avec les collectivités, je me rends compte que les personnes handicapées sont vraiment prises en compte avec des créneaux qui sont vraiment accessibles au niveau des créneaux horaires, hein, je parle. Mmh. Ça, je trouve que ça bouge beaucoup et je pense que la jeunesse, encore une fois, se fait avec sans problème à ces différences, elle ne les voit même plus. Par contre, je trouve qu'on a encore des difficultés dans les accueils, par exemple, autant le terrain de sport ou la piscine, tout ça, ça va être magnifiquement organisé, tout le monde va pouvoir faire le sport ensemble. Par contre, les vestiaires sont revoir parce que les vestiaires ne sont pas encore adaptés. Ni pour les féminines d'ailleurs, ni pour les personnes en situation, personnes handicapées. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut revoir, les vestiaires. La mobilité aussi pour accéder aux équipements, parce qu'encore une fois, par exemple, on ne peut pas prendre le métro comme ça. Il y a le tram qui va nous arranger un peu sur Paris, mais on ne peut pas prendre la mobilité comme ça, donc ce n'est pas encore évident. Et c'est peut-être ça qui freine, alors que dans l'espace sportif, je pense que ça peut vraiment réussir. Mmh. Et on a beaucoup d'intérêt pour tous les sports spécifiquement handicapés. Et moi, j'avais des élèves qui préféraient faire du basket en fauteuil que faire du vrai basket parce que ça les amusait plus de le faire en fauteuil. Donc, il y a vraiment un mélange de genres. Et je pense que cet enthousiasme va grandir avec le temps. Et moi, je pense que la très nouvelle génération, les très jeunes, sont vraiment enclins à travailler vraiment tous ensemble sans voir les différences. En fait, les différences sont gommées parce que les enfants sont habitués à faire du sport ensemble et à vivre ensemble finalement.
Alors parmi aussi vos actions, en lisant un peu donc ce que vous faites, il y a des actions pour la réinsertion.
Alors oui, pour la réinsertion, c'est important parce qu'on a nos athlètes de haut niveau qui donnent, comme vous le savez, toute leur jeunesse au sport. Alors évidemment, c'est leur passion, mais c'est quand même un vrai engagement de leur vie, c'est un vrai problème. Les études qui sont faites parfois en plus de temps, il faut qu'ils fassent deux fois la même année pour que le programme soit entièrement fait. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important. Et nous, on doit les aider évidemment à grandir jusqu'à temps qu'ils arrivent au maximum de leurs possibilités et surtout pas les abandonner parce que, encore une fois, je pense qu'on est dans l'accessibilité, c'est bien, parce que là, on les suit. Mais à un moment donné, il va y avoir une difficulté. Et là, il faut qu'on soit vraiment à leur côté. Soit il y a une blessure qui va les arrêter, il faut savoir les soutenir. Ouais. Soit ils ont fini leur carrière sportive parce que, comme on a vu Federer qui vient d'arrêter là récemment. Ouais. Donc alors lui, il est plus âgé, mais il y en a qui arrêtent beaucoup plus tôt. Moi, je vois des sports comme la gymnastique, on est vieux très vite en gymnastique. Parce que
on les aide à trouver du travail.
Alors, on les aide à trouver du travail.
À reprendre des études éventuellement.
C'est ça. Et puis alors, maintenant, on a vraiment le secteur de la haute performance qui considère justement qu'on est aidé à devenir champion, mais on est aussi aidé à sortir de champion. La Conférence mondiale du sport a pris ça aussi en main, c'est-à-dire qu'on a une commission qui gère justement cette reconversion des sportifs de haut niveau pour les aider à trouver des emplois, à leur trouver des logements, les aider à trouver aussi dans les entreprises. Vous savez, ils sont friands d'avoir des athlètes de haut niveau. Ils sont très friands parce que ce sont des gens qui ne lâchent rien. Un sportif, tant que le coup de sifflet n'est pas donné, le match n'est pas fini. Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, la course n'est pas finie. Il peut arriver n'importe quoi. Il y a des disqualifications par arriver. Donc, il faut y aller. Et donc, ils sont très friands. Donc, maintenant, on a bien compris ça. Et donc, nous, ça nous permet de les aider à trouver un emploi et à être considérés comme étant une plus-value dans les entreprises, notamment. Et on a aussi aidé des jeunes à pouvoir créer leurs entreprises, c'est-à-dire leur donner des billes. On a travaillé avec la CCI, Chambre de commerce, notamment de Paris, qui nous aide justement à mettre en place un système d'aide à la formation, devenir entrepreneur. Mmh. Et ça, on est vraiment, et l'État aussi, donc avec l'État, le mouvement sportif et la Chambre de commerce. Ouais. Et donc, on essaie justement de les aider à trouver leur place en tant qu'entrepreneur.
Ouais. Et y compris au sein du milieu carcéral.
Alors c'est quelque chose sur lequel vous touchez une corde sensible parce que nous, on a 12 maisons d'arrêt en région Île-de-France et j'y étais encore à Viry-Murégis il y a 3 jours parce qu'on considère que ces gens-là, on prépare leur sortie. Et ça, c'est quelque chose qui est important.
Ça, c'est beau. Ouais.
Ils doivent être en forme physiquement. Donc, nous, on a mis des animateurs. On coordonne tous les animateurs qui sont dans les maisons d'arrêt en lien avec la DISP, c'est-à-dire avec le ministère de la Justice. Et donc, on est en train de mettre en place un maximum d'activités pour que tous les détenus puissent faire du sport régulièrement. Parce que là, c'était encore trop peu. Donc, c'était un peu au tirage au sort ou on ne sait pas trop, mais ils ne pouvaient pas tous en faire. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on... Alors, donc, on est en train de mettre dans les cours de récréation des espaces sportifs où ils peuvent en faire déjà en pratique libre, comme ça se fait maintenant pour tout le monde. Et en même temps, on met des animateurs pour les aider à trouver justement leur rythme. Et puis en même temps, ben, on apprend les règlements qui sont importants aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Puis alors avec la nouvelle technologie, je repense encore aux jeunes, on a réussi entre Fleury Mérogis à Poissy à faire une compétition ensemble, alors que c'est complètement écartelé au niveau géographique, parce qu'on était connectés. Et donc les jeunes détenus faisaient des activités ensemble, comptaient les points de l'un et de l'autre. Et donc voilà, c'est ça aussi qu'on arrive à faire dans le milieu carcéral. Et là, donc dernièrement, on a évoqué l'idée de refaire ce qui avait été fait à Fleury, parce que c'est quand même un peu la prison la plus importante chez nous, de refaire les Olympiades pénitentiaires. Et donc, pour Paris 2024, on va refaire ça, qu'on associera évidemment au sport, avec les connectés. Ce sera très facile de faire quelque chose de très sympathique. Avec, bon, voilà, il y a des bâtiments de détenus qui déterminent leurs meilleurs athlètes dans les bâtiments. Et après, c'est des bâtiments qui se rencontrent. Donc, c'est très sympa. Et on va y associer la culture, parce que vous savez que les jeux, c'est culture et sport. Et donc, dans les murs de la prison, plutôt que ce soit blanc et un petit peu maussade, on va y faire des fresques sportives, de manière à ce que ceux qui ont la fibre artistique puissent faire partie aussi de l'aventure olympique par l'intermédiaire de ces fresques culturelles qui seront mis à l'honneur. Et il y aura un petit concours qui sera monté, de manière à mettre un peu d'émulation entre les détenus. Mais ça, ils sont très contents, les détenus, parce qu'encore une fois, ils pensent que derrière, on pense à eux et on les attend. Moi, c'est ce que je leur dis, on vous attend dehors. Et nous, le Cross Île-de-France, moi, je suis marraine d'un ancien détenu et j'en suis très, très fière, parce que c'est un jeune qui a été boxeur amateur et ensuite il est devenu boxeur professionnel et il a gagné il a été champion de France. Donc si vous voulez, c'est des beaux modèles qui permettent à tout le monde de croire encore à la vie, croire dans le sport. Et encore le sport, la magie du sport, c'est ça, c'est qu'on n'est jamais perdu et on a toujours des mains tendues par le sport.
Voilà. Et puis naturellement, il y a la lutte aussi contre le prosélytisme et puis les violences sexuelles.
C'est quelque chose qui est sorti en février 2021.
Ça, c'est un problème.
Grâce à la ministre des Sports de l'époque, Roxana Massernio, qui a soulevé ça. Elle a bien fait, parce que maintenant, c'est quelque chose qui se...
Il y a eu des problèmes dans beaucoup de fédérations, patinage.
Vous me dites beaucoup, dans toutes les fédérations, il y a eu des problèmes. Il n'y a pas une fédération qui a échappé à ça. Alors, ça se dit plus ou moins, c'est le sport de glace, effectivement, qui a été lancé dans cette aventure, mais tout le monde y est passé. Alors, c'est quelque chose qui existait, qui a toujours existé. Malheureusement, on n'en parlait pas, et il y a eu des vies massacrées à cause de ça. Je pense quand même que le respect, là, prend toute sa valeur, cette valeur olympique prend vraiment toute sa valeur, parce qu'il faut vraiment qu'on se respecte les uns les autres. Et là, on est acharné, nous, Cross, avec cette dynamique des violences dans le sport en général, parce que les violences sexuelles, c'est une partie, mais vous savez, des violences verbales, c'est très, très difficile aussi pour certains enfants qui sont blessés à vie pratiquement pour ce qu'ils entendent. Et donc, on est vraiment là-dessus. Et c'est vraiment, si vous ouvrez notre site, c'est les violences au départ, parce qu'on veut vraiment mettre l'accent. Le sport, ça ne peut marcher que s'il n'y a pas de violence et s'il y a le respect de l'autre avec un grand A.
Il y avait une question que Valentin voulait poser tout à l'heure. Concernant ce qu'on avait parlé sur les lycées, Valentin.
Pas spécialement, mais on parlait à la pause justement. Je revenais sur le sport, comme disait Thomas Louis, au collège, au lycée, où on avait de moins en moins de sport, et qu'après sortie du lycée, on n'avait plus tout de sport, et que ça nous manquait en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'après les cours, université, la fac, on aimerait bien se défouler un peu, penser à autre chose, et puis même continuer dans ce qu'on est. Il y en a, ils sont au tennis, au foot. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là que Emmanuel Macron, pour les JO 2024, avait annoncé qu'il voulait que la France soit la première nation sportive au monde. Et Teddy Riner avait répondu, et Evan Fournier aussi, joueur de l'équipe de France de basket, qu'il fallait déjà plus investir, parce que eux, malheureusement, à leur époque, ils ont dû partir de la France en quelque sorte pour devenir professionnels, alors que au collège et au lycée, c'est là où on commence à avoir des graines de champion et des jeunes qui peuvent réussir. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il faudrait détecter plus bas, et puis même leur permettre avec un financement beaucoup plus conséquent. Donc on espère que les JO 2024 vont pouvoir aider à montrer encore plus le sport français.
C'est un vrai message.
C'est
un vrai message, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, parce que vous avez raison, beaucoup d'athlètes partent aux États-Unis notamment, entre autres, parce qu'ils ont là-bas des possibilités d'entraînement qui ne sont pas celles de la France, alors que c'est nos sportifs, c'est nous qui les avons fabriqués.
Et après, ils reviennent et c'est nous qui avec le drapeau.
Après, ils reviennent, mais pendant un moment, ils ne sont pas là, et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que voilà, c'est quand même nos Français et c'est quand même nos pépites finalement, dont on fait partir.
Bon, Evelyne, pour la fin de cette émission, on a un cadeau à vous proposer. Hein. C'est un cadeau que va vous faire Thomas Louis, c'est sa dernière, donc on va le remercier.
Ah, c'est sa dernière.
Bah oui, parce qu'il retourne à son école de journalisme. Oui, et il avait un cadeau de collègues d'étudiants de journalisme qui ont réalisé un véritable périple sportif et en plus pour une cause humanitaire.
Et oui, j'ai été réjoui de savoir que des collègues à moi de mon école avaient fait Nice-Paris en vélo, du coup pour une association sportive avec un parrain exceptionnel, des sponsors par-ci
qui
par-là.
Qui était-il,
parrain ? Bah ça, vous allez voir dans l'interview. Okay, je ne vais pas tout vous dire maintenant.
C'est bien, je suis journaliste, dire maintenant.
Ouais. Donc voilà, c'est encore un très beau message sur le sport. C'est tout ce qu'on aime, les valeurs du sport, les valeurs d'aider son prochain, surtout avec l'association Rêve, dont on va parler aussi dans l'interview. Donc voilà, je laisse Jason mettre cette très belle interview.
Et oui, je suis avec 5 jeunes de l'école du journalisme de Nice qui se sont lancés le défi fou de faire Nice-Paris à vélo. Comment allez-vous, messieurs, après ce long périple ?
Bah, ça va très bien, un peu fatigué, surtout de l'étape d'hier avec les 100 km et puis la redescente émotionnelle, mais ça va bien.
Parlons maintenant un petit peu du parcours. Vous avez fait au total 927 km, dont 4300 mètres de dénivelé. Tout ça sur 14 jours, 14 étapes. Vous êtes parti du coup le 1er septembre de la place Masséna à Nice pour rallier le très beau Trocadéro de Paris. Comment s'est passée cette très longue montée vers Paris ?
Bah, le parcours, donc déjà 927 km. Je pense qu'on on a fait un peu plus parce que à Lyon, on fait des détours. À Paris, on fait des détours. Il y a des problèmes de GPS. Mais le tracé, finalement, la première semaine, c'était plus physique avec des étapes montagneuses. L'étape 3 où on a enchaîné 3 cols. Mais la deuxième étape, finalement, celle où il y a le plus de plats, était la plus difficile. Où c'est vraiment le mental qui rentre en jeu. Où on doit se motiver le matin, aller tous ensemble. Parce qu'il faut se dire, allez, on monte sur le vélo, il nous reste 6 jours. C'est encore loin. Donc ouais, c'est la deuxième semaine la plus difficile. Et finalement, la première semaine, c'est la plus kiffante. Parce que voilà, on fait une étape et on a un aboutissement au milieu de l'étape. On se dit, allez, on va au col et après on a de la descente. Alors que les étapes en bord de Loire, c'est que du plat, quoi.
On va remonter fin 2021. Comment vous êtes venu l'idée de faire ce défi fou ?
L'idée était venue parce qu'à la base, il y avait un quatrième coureur. Avec ce quatrième coureur qui s'appelait Hugo, on était allé à Marseille voir un match de foot. C'était Marseille-Metz. Vraiment un match nul. Mais on s'est dit, dans la journée, on va visiter Marseille. Du coup, on est monté à la Bonne Mère. Et en montant à la Bonne Mère, on voyait que ça montait vachement. Et on s'est dit, on va faire Nice-Marseille en vélo pour le plaisir. Donc, on avait gardé cette idée-là le long de la journée. Et lors de notre retour sur Nice, on s'est dit, c'est pas assez fou. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus fou. Et du coup, on s'est dit, Nice-Paris, c'est quand même pas mal. On a gardé ça dans un coin de notre tête. Le lendemain, on en a parlé d'abord à Maël. Maël, il en a rigolé. Il nous a dit, je vous suis. Et par la force des choses, par des soirées arrosées, des fois, on en parle à Benjamin, puis à Enzo, puis moi à Maurice. Et par la force des choses, on a construit quelque chose qui s'est avéré incroyable, puisqu'en plus, on l'a fait pour la bonne cause.
Et oui, il est important de rappeler que vous n'avez pas fait tous ces kilomètres dans le vide. En effet, vous avez couru pour l'association Rêve. Parlez-nous un petit peu plus de cette association et pourquoi avez-vous choisi celle-là au détriment d'autres ?
C'était l'association qui pouvait nous laisser le plus de liberté et celle qui correspondait le mieux au projet. Réaliser le rêve d'enfant gravement malade, c'était la chose la mieux à faire pour nous. Donc, voilà.
Comme vous venez très bien de le rappeler, l'association Rêve est une organisation française qui récolte du coup des fonds pour aider les jeunes enfants soit atteints de handicap ou gravement malades à réaliser leurs rêves. J'ai pu voir, il y a peu de temps qu'il restait, 465 rêves en attente. Est-ce que tout simplement vous avez pu choisir quel enfant vous avez aidé avec cette longue montée vers Paris ?
Alors on nous l'a proposé, on nous a demandé si on avait envie de choisir. Après on leur a laissé la liberté de choisir eux-mêmes parce qu'on n'allait pas nous maintenant commencer à décider quel enfant devait avoir son rêve réalisé. Et je pense que c'est encore plus beau justement d'avoir cette surprise de pouvoir se dire ah ouais, on a fait ça pour ça et pour cet enfant-là. Et donc nous on a décidé même nous-mêmes de ne pas avoir ce choix.
Eh bien en tout cas c'est tout à votre honneur en espérant que dans les prochains mois ou semaine, vous pourrez savoir qui vous avez aidé, voire même peut-être le rencontrer. On va parler maintenant du gros partenariat de ce projet avec l'OGC Nice. Parlez-nous-en un petit peu.
L'OGC Nice qui nous a donné un maillot dédicacé par toute l'équipe pour la vendre aux enchères. On a été agréablement surpris parce que on pensait pas de base, quand on a lancé le projet, avoir autant de soutien, et notamment le club de Nice. Ça a été vraiment quelque chose de très gentil. Ils nous ont donné le maillot parce qu'ils ont comme ça des partenariats avec certaines associations. Ils ont bien voulu nous donner ce maillot qu'ils nous ont donné une semaine avant de partir. Donc vraiment, même dans les délais, ça a été parfait et tout s'est bien déroulé. On a pu vendre le maillot aux enchères et on les remercie encore.
C'est vrai que l'on voit souvent l'OGC Nice très proche de nombreuses associations, et en espérant que ça inspire tous les autres clubs français à aider les plus démunis pour le bien de tous. Et comment parler de votre grand projet sans parler de votre parrain? En effet, Gérard Roll, c'était à vos côtés pour toute cette longue montée vers Paris. Comment s'est passée tout simplement l'association entre vous et Gérard?
Gérard Rolls, on le connaissait d'avant puisqu'on avait fait on l'avait invité dans une émission à l'école. Et puis on s'est regardé un soir, encore une fois une soirée arrosée, où on s'est dit pourquoi pas rendre plus officielle la chose avec des parrains. Et on était en communication avec Gérard, donc j'ai dit pourquoi pas, on peut toujours essayer. Il a été tout de suite très compréhensif parce qu'il a beaucoup aimé la cause. Et le fait de partir en vélo, parce que c'est un mordu de vélo. Et derrière, il est venu à Nice, il nous a encouragés, donné des conseils. Et tout du long de l'aventure, on est resté en contact pour qu'il nous encourage. Et puis on va aller fêter ça la semaine prochaine avec lui autour d'un verre.
Et pour finir, parlons maintenant un petit peu de chiffres. Pour rappeler, vous aviez pour objectif, dans un premier temps, 3000 euros à récolter pour cette association Rêve. Et au final, au lendemain de cette arrivée à Paris, vous êtes à 3625 euros, soit 121% de l'objectif de base. J'imagine que vous êtes heureux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette expérience et à tout l'argent que vous avez pu récolter?
Déjà, merci à toutes les personnes qui ont donné. Parce que, comme je dis souvent, nous, on pédalait, mais chaque kilomètre qu'on parcourait nous rapportait pas d'office 1 euro. Donc toutes les personnes qui étaient sensibles à la cause nous ont permis de rendre encore cette aventure plus belle et d'avoir une cause noble pour ce Nice-Paris. La cagnotte, elle est ouverte encore jusqu'à dimanche, donc vous pouvez donner si vous écoutez. Parce que, comme on dit, plus d'argent est récolté, plus il y a de rêves de réaliser. En moyenne, un rêve, c'est 2500 euros. Donc là, se dire qu'on va réaliser un, voire plusieurs rêves, c'est juste fou. Et voilà, c'est... La petite récompense en plus qu'on n'attendait pas. Voilà, on s'attendait à 3000 euros, mais là, plus de 3000 euros, et en plus, on l'a fait entre amis, c'est juste fou.
Sympa en tout cas, vous voyez, c'est ça le sport. Hein.
Formidable, hein, ouais, vraiment, au chapeau les jeunes, parce sportif, que hein. Ça, c'est vraiment l'entraide manifestée et concrétisée.
Et puis, bravo, Pierre, merci à Gérard, on le connaît un peu. C'est pas une surprise. Hein.
Oui, c'est pas une surprise. Tout, c'est un.
Il vit à Nice en plus.
Très bon humain. C'est-à-dire que c'est un. De toute façon, on voit très bien les personnes qui sont sincères. Sont
il fait
toujours
pas semblant d'aimer le sport.
Voilà, exactement. Et aussi, un gros coucou du coup à ces personnes-là qui ont fait ce Nice-Paris. Bravo, tout simplement, pour la bonne cause en plus. Donc, c'est magnifique. Et voilà.
Et ce sont des jeunes futurs journalistes.
C'est ça, jeunes futurs journalistes.
Sportifs,
Sportifs, ouais, oui. Ils sont bien. À fond dans le sport.
C'est bien, ça promet, c'est bien.
Et en plus, ils sont jeunes. Ouais, ils sont jeunes, ils ont aux alentours de 18 ans. J'ai parlé un petit peu avec eux. Il y en a qui ont fait ça sans entraînement.
Ah oui, en plus.
Ils sont vraiment fous, je leur ai parlé.
Ils ont dormi où, à l'hôtel?
Alors,
à
ils
la
ont
tente,
été tous les jours chez les mairies, chez les habitants, les mairies, ils ont dormi. Ils m'ont parlé, c'est vrai que j'ai pas pu tout mettre dans l'interview, mais ils m'ont parlé de leurs meilleurs souvenirs. Ils ont dormi dans un vestiaire de foot. Ils ont, même si c'était une vraie aventure, ils ont adoré. Et en tout cas, ça m'étonne pas, c'est de très bons gars. Ouais.
Et ils ont mis combien de temps pour récupérer?
Pour récupérer ça, je sais pas, je sais qu'ils sont partis la semaine d'après, ils sont partis au Portugal en vacances.
Ouf,
donc
ouais,
ils se sont fait plaisir. Et leur rentrée c'était aujourd'hui en plus.
D'accord.
Leur rentrée c'était aujourd'hui, donc on leur passe
coucou.
Un beau cadeau de voir que des jeunes s'investissent comme ça pour donner du rêve aux autres. Vous voyez comme quoi ça permet justement cette relation extraordinaire.
Bon, bah, Evelyne, merci en tout cas pour votre
venue. Avec plaisir, hein, Philippe.
Il y a un petit mot de fin à dire. Faites du sport, investissez-vous.
Faites du sport, faites du sport tous les jours parce que ça rend bien dans son corps, ça rend bien dans sa tête. Et puis, que les meilleurs gagnent. Mais en tout cas, on a tous le droit à faire du sport tous ensemble. Et vive les Jeux 2024. Je crois qu'on est tous embarqués. C'est à moins de 2 ans maintenant. Je crois que c'est important, ces Jeux olympiques et paralympiques. On les attend depuis 100 ans. Je crois que ça va être quelque chose de formidable. Je crois que c'est une vraie fête populaire qui laissera des traces chez nous pour notre future génération.
Alors justement, on s'était vu donc à la journée olympique, il y a les paralympiques maintenant à la Bastille.
Exactement, le 8 octobre. C'est 8 octobre, rendez-vous tous à la Bastille pour célébrer justement la
journée qui sera équivalente à ce qu'on a vu.
Absolument, la journée paralympique, donc venez tous les encourager, ils le méritent et on sera tous à leur côté.
Voilà, bah on s'y verra là-bas, puis on se reverra.
Absolument, on se reverra.
Charletti, c'est pas très loin.
Bien sûr, à votre service.
Allez,
merci.
Merci, Valentin. Rendez-vous la semaine prochaine.
Et c'est ça, parfait.
Et puis je remercie Thomas Louis. Lui il va repartir à Nice. Merci pour tout, en tout cas. Et tu reviens quand tu veux.
Mais oui, d'accord. Je reviendrai pour la Coupe du Monde, c'est promis. Oui,
d'accord, ok. Bon merci. Et merci à Jason pour avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. On termine avec Wookid Iron, cette fois-ci, je l'ai bien dit. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Snow is burning my hands. I'm frozen.